parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h. Et oui, et nous sommes même le jeudi 9 mars de l'année 2023, pour ne rien vous cacher. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour moi, ça va. Hein? Mais si, je vous entends pas, mais je sais que vous posez la question. Non, tout va bien quand je suis en votre compagnie. Tout va pour le meilleur, c'est que du bonheur. Bonsoir Anthony, comment vas-tu Anthony ?
Bonsoir Vanessa, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
Ben voilà, et toi ?
Eh ben écoute, ça va super, tu es très bien habillée comme d'habitude, un très beau pull, t-shirt rose avec une magnifique coupe de cheveux.
Rose. Du rose, voilà, j'ai pas changé mes goûts de petite fille, j'ai toujours aimé le rose. Et puis ça va peut-être favoriser la météo, faire revenir le soleil, on va essayer.
Il va faire un très beau week-end, et puis même, quand tu dis qu'il fait rose, le rose c'est pour les petites filles, pas forcément, c'est pour aussi les garçons.
Les garçons c'est le bleu. Non, on va pas changer les choses, ça suffit. Hein. Ah oui, non, mais attends.
Et faire taper sur les doigts.
Non, pas du tout, mon Tony, mais tu sais quoi? Eh bien, sans vouloir faire de transition un petit peu,
Jean-Michel transition.
Coupé au hachoir. Eh bien, c'est presque le thème de ce soir, vois-tu, vois. Ah ouais.
Là, je t'ai fait une passe D, t'as vu ça?
Ah oui, là, tu m'as fait un boulevard, là. Eh bien, on y va, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris. Je vous souhaite une excellente soirée parmi nous. Mais avant de vous donner la parole, je vais prendre une petite gorgée d'eau.
C'est important de boire de l'eau.
Ah, c'est très important de s'hydrater. Voilà, eh bien, tout d'abord, les petites pensées du soir. Une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, les Djibulkoum, Chvinchalin, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés, ou seuls chez vous, une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles, on n'oublie pas les courageuses, et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Alors un super sujet là ce soir. Ils sont toujours bien les sujets. Non mais c'est vrai, ils sont souvent suggérés par quoi ? Par vous !
Le premier qui dit que tes sujets ne sont pas bien, je vais le voir moi.
Voilà.
Tes sujets sont toujours parfaits. Et hier, l'avocat,
c'est pas les miens,
c'était trop bien.
Ah, c'était parfait.
J'ai écouté en replay ce matin.
C'est vrai ? Non, c'était de bons retours on a eu. Et c'est vrai qu'elle est... Sandrine Pégan, qui est maître, qui est avocat au pénal, hein, elle est pénaliste au barreau de Paris. Nous l'avons reçue hier. Pour les personnes qui n'étaient pas présentes, vous pouvez écouter le podcast qui est à votre disposition. Vous tapez podcast Beurre FM, voilà. Et là, vous avez Confidence, et vous avez la date d'hier, 8 mars, puisque c'était la journée de la femme. Donc elle était à l'honneur hier, Sandrine. Et c'est vrai qu'on a découvert la femme. Moi, je voulais découvrir la femme, ses confidences. Donc, elle s'est confiée, elle s'est prêtée au jeu, vraiment. Elle s'est confiée comme jamais. Hein, parce que vous l'avez souvent à la télévision, dans des émissions où on parle d'affaires, hein, d'affaires juridiques, etc. C'est très sérieux sur les plateaux. Et puis là, je voulais un tableau différent, quelque chose. Voilà, je voulais que vous. Enfin, quand je dis vous, nous. Voilà, moi je pense à vous. Eh bien, découvrir la personne qui se cache derrière la robe d'avocat. Et hier, elle s'est prêtée au jeu, effectivement. Et elle a répondu. Elle a répondu avec son cœur. Je lui ai dit de parler d'elle depuis sa conception. Et elle a été vraiment magnifique là-dessus, puisqu'elle elle a tout dit sur elle, sa famille, sa vie, enfin tout. Comment lui est venue cette envie de défendre toujours. Ça a commencé à l'école, défendre les petits camarades qui étaient chahutés, enfin voilà. Elle nous a tout raconté, et puis à la fin, il y avait des questions d'auditeurs d'ordre juridique, et vous êtes restés un peu sur votre faim. Mais elle a promis, Sandrine, de revenir, et elle a beaucoup aimé Beurre FM, hein. Je peux vous assurer qu'elle vous a adoré. Elle reviendra, et vous lui poserez vos questions, bien sûr tout ce qui relève du pénal, et elle y répondra avec grand plaisir, voilà. Elle m'a fait, voilà, je fais la commission. Hein. Alors, ce soir, eh bien, chers amis, on a Nati, et les autres, on vous attend, hein, 01 53 48 3000, allez, on se réveille. Alors, ce soir, j'avais envie de vous proposer un sujet, comment dire, écoutez, hier, c'était la journée des droits des femmes. Puis qui dit droit des femmes parle du combat, de la lutte qui fut longue, ma foi, du féminisme incontournable, etc. Et puis il y a plusieurs formes de féminisme, n'est-ce pas? Alors donc aujourd'hui, féminisme, comment dire, il est incontournable de parler de féminisme sans penser à toutes ces associations pures et dures et qui, comment dire, quelques-unes, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu, elles sont tombées dans un piège, voilà ce que j'ai envie de dire, dans une forme de piège, et ça fait vraiment l'effet inverse, parce que on peut être féministe mais pas être anti-homme quand même, justement si on a prôné et de tout temps nos aînés ont lutté, bataillé pour l'égalité, hein, des sexes, les droits des femmes et des hommes, voilà. Que ces droits soient égaux. Eh bien, si ces femmes ont lutté longuement, c'est pour une égalité. C'est pas pour prendre le dessus et être supérieure à nos frères hommes. Et non, nous sommes côte à côte. Et puis, les hommes d'aujourd'hui ne sont pour rien concernant les mentalités d'antan, etc. Donc, voilà. Je voulais rétablir une forme d'équilibre. Voyez-vous? Alors, j'espère que vous allez me suivre ce soir et me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Pardon. Alors, si vous êtes des féministes purs et durs, c'est tout à fait votre droit. On est dans un état de droit, chacun pense comme il veut. C'est ça, la liberté de penser. Venez en parler, venez le dire, venez me dire pourquoi. Voilà, parce que certaines, c'est comme une revanche qu'elles prennent. Et puis d'autres, voilà, un peu plus modérées, on verra, on verra. Excuse me. Alors, peut-on avoir le droit, à notre époque, d'être une femme sans être féministe? A-t-on le droit encore d'être femme sans se sentir solidaire des combats féministes les plus radicaux, sans pour autant se faire traiter de réactionnaire, voire taxer de complicité avec les misogynes, et sans être immédiatement sommé de choisir son camp? Les droits des femmes doivent encore être abordés et le combat féministe est encore nécessaire partout, y compris en France. Grâce à l'immense courage de briseuses de silence et aux nombreux témoignages de survivantes de féminicides, la société a été obligée de reconnaître la dimension des crimes sexistes. Notre époque déborde en réalité d'illusions et de mythes à propos des droits des femmes. Nous vivons toujours dans une époque où beaucoup considèrent encore que les femmes sont inférieures aux hommes. Beaucoup de femmes luttent encore dans le monde pour l'égalité des sexes. Sont-elles toutes des féministes acharnées? Non. Justement, des femmes qui réclament les mêmes droits que les hommes, réclamer les mêmes droits ne veut pas dire imiter les hommes. Être une femme qui se bat tout simplement pour une égalité entre les hommes et les femmes, tout en cultivant sa féminité, c'est possible. Alors on y va. 01 53 48 3000. Allez, venez aborder ce sujet qui, ma foi, c'est un sujet très, très, très important. Je vous attends, les femmes et les hommes également. Hein. Je veux vous voir à égalité, en nombre, en tous les cas, sur la liste des appels. Nati nous appelle de Montpellier. Bonsoir, Nati.
C'est la première fois que j'appelle. Hein. Ah. Je vous écoute depuis très longtemps. Et c'est la première fois que je me permets d'appeler.
Merci, bienvenue.
Je vous trouve fantastique.
Ah, bah écoutez, c'est gentil.
Fantastique, je vous écoute tous les jours. Vous êtes une personne très, comment dire, très profonde, que ce soit dans les sujets ou dans les réponses, dans le bon sens en tout cas.
Ben, écoutez.
J'apprécie beaucoup vos dires.
Merci infiniment, vraiment.
C'est vraiment quelque chose de fantastique que j'ai découvert il y a peu de temps. Hein. Je vous écoute depuis 2 ans à peu près.
D'accord.
Et plus je vais en vous écoutant, et plus j'apprécie, et plus je suis pressée de vous entendre.
Oh mon Dieu, écoutez.
C'est pour vous dire. À 9h, pour moi, 9h, c'est 9h, même s'il y a quoi que ce soit qui dure. 9h, c'est Vanessa, on est tranquille. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En fait, le sujet d'égalité entre un homme et une femme, je suis entièrement, je suis pour, hein, je suis dans une égalité, qu'elle soit pour un homme et pour une femme, égale, pour faire tout, hein, que ce soit les courses, que ce soit le ménage, que ce soit le salon.
Oui, Mais dans le travail et dans
le voilà, dans le travail, dans ouais. voilà, dans tous les sens du terme. Oui. C'est pour ça que je peux m'appeler féministe dans ce sens-là, mais voilà. pas dans l'extrême. Hein. Je suis voilà. pas dans l'extrême du tout.
Une
du
féministe tout, du tout, du apaisée, tout. On va dire.
Apaisée, très apaisée, voilà. on va dire. Mais c'était surtout pour vous dire ce que je pensais de vous. Et je suis très contente d'avoir appelé, d'avoir eu le courage, courage d'appeler.
Et vous faites partie de, ça y est, tu fais partie, on se tutoie, tu fais partie de la famille maintenant, Nati, la famille Beurre FM. Gentil. Tu m'as vraiment touchée profondément. C'est sincère parce que je suis quelqu'un.
Ah, mais je vous apprécie. Je ne vous connais pas.
C'est gentil, vraiment.
J'ai été voir votre visage. Je ne vous connaissais pas. Hein. Dès que j'ai été voir votre visage sur Internet.
Oui.
Je vous trouve d'abord magnifique.
Oh.
Tout simplement. Une femme blonde comme ça, c'est magnifique. Vous êtes vraiment quelqu'un de magnifique.
Merci.
Mais surtout de votre manière de parler, d'aider psychologiquement et physiquement les gens, je trouve ça merveilleux. Et continuez comme ça parce que vraiment, ça me touche vraiment. Ça me bat droit au cœur et c'est quelque chose que j'apprécie chez vous. C'est votre... Je sais pas comment dire. Vous donnez sans compter. C'est gardez ça parce que vous faites merveille.
Ben écoutez,
chez moi.
Sincèrement, je suis émue, troublée, et je suis une personne.
C'est vraiment sincère.
Je l'entends. Oui, j'ai bien compris. Et puis vous savez que comme tout le monde, même si les apparences sont souvent trompeuses quand on parle avec le verbe comme ça, mais je suis quelqu'un de très sensible et très sensible en tous les cas. À ces belles choses que vous venez de dire et ça me va vraiment droit au cœur. Merci.
Il fallait bien que je mette un nom sur Vanessa, il fallait bien que je vois Vanessa, j'entendais Vanessa, oui. Il fallait que je mette un nom sur un visage. Ça, c'était primordial.
C'est très encourageant.
Je vous trouve vraiment, continuez comme ça, vous êtes merveilleuse. Et c'est du matin aussi, hein, parce que c'est du matin, ils sont pas mal aussi.
Les
hein.
petites annonces.
les petites annonces de 11h, ceux du matin de 6h.
Ah oui, toute l'équipe.
Toute l'équipe. Vraiment, c'est super.
On est tous soudés ici.
Ouais. Je vois que vous êtes une famille.
On est une famille dont vous faites partie, Nati. Hein.
Ah, mais c'est gentil à vous.
Vraiment, vraiment bien.
En tout cas, j'embrasse tout le monde.
Merci.
Même monsieur, comment il s'appelle? Je ne me rappelle jamais son prénom.
Anthony,
qui est adorable quand il répond, d'ailleurs.
Oui. C'est très gentil, merci beaucoup.
Il est très, très gentil. Il me rappelle mon fiston. Alors, c'est un peu... Oui, dans sa voix, j'entends mon fils.
Ah, il est adorable. Merci à lui,
En tout cas, merci beaucoup. Continuez comme ça.
Je vous embrasse fort. Je t'embrasse.
Merci.
À bientôt et reviens vite.
Au revoir.
À bientôt. Adorable, Nati. Adorable. Vraiment, commence bien l'émission. Hein. Avec des encouragements, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça gonfle le cœur. Voilà, pas la tête. Parce qu'on a toujours la tête froide, mais ça gonfle le cœur. Ça fait du bien. On a une pause, c'est ça que tu veux dire? D'accord, Anthony. Alors, 01 53 48 3000. On a Momo, mais s'il vous plaît, je veux que vous me remplissiez ce standard. À dernière heure, vous êtes toujours nombreux à appeler, pas le temps de passer. C'est maintenant qu'il faut appeler. Voilà, connaître un petit peu votre point de vue sur le thème de ce soir ou parler d'autre chose. Hein, vous êtes libre. Hein. Venez vider votre cœur, par exemple, ou un sujet d'actualité que vous voulez aborder. Il n'y a aucun souci. C'est votre émission, c'est votre radio. C'est vous qui faites cette radio, d'ailleurs. Hein. Et donc, ce soir, moi, je propose, peut-on avoir le droit, à notre époque, d'être une femme sans être féministe? Voilà, tout simplement. OK? Allez, je vous attends. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000. Donc on attend vos appels. Ne vous impatientez pas parce que vous venez, vous repartez et c'est bien dommage. Donc restez le temps que Anthony vous prenne. Faïza, bonsoir Faïza. Faïza du 92.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Faïza.
Merci.
Alors, du coup,
moi, je suis pas aussi une acharnée, enfin vraiment comme vous l'avez dit tout à l'heure, les
féministes.
Voilà, celle-ci. Mais moi, juste parfois, je trouve que au niveau du travail, les hommes, ils sont un peu de mon expérience, de ce que j'ai vécu, un peu pas, enfin on va dire. Ils ne comprennent pas, nous, les femmes, par rapport déjà au congé maternité, à la durée, si on veut poser un congé parental. Je trouve que sur, de ce côté-là, en fait, ils ne font pas d'efforts. Et en fait, c'est, je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve que ce n'est pas égal à ce niveau-là, même si... oui, c'est pas égal le de parce que ils peuvent avoir des enfants, mais j'ai l'impression que les hommes ne comprennent pas, ils ne se mettent pas à notre place en tant que maman. Je trouve que ça c'est
Et ça tu le ressens dans le travail
Oui, Faiza. Dans le travail, par exemple, si notre enfant il est malade ou quoi, bah en fait ça passe limite de force ou parce que c'est légal, parce que voilà on a le droit, mais sinon ils le prennent vraiment mal. Moi, de ce que j'ai vécu, c'est pas normal pour eux. Maman, c'est pas en fait, moi de ce côté là je trouve que
c'est comme si c'était c'est un travail d'être maman, c'est un travail à temps complet, et en plus que ça, je dirais, parce que c'est 24 heures sur 24 nuit et jour. Ah, c'est plus qu'un travail à l'extérieur. Pour eux, c'est peut-être, de ce que je comprends, de ce que tu veux dire, c'est comme si c'était une activité un petit peu pour se faire plaisir.
C'était rien.
Voilà.
Moi, quand j'ai été maman et que j'ai dû en parler pour des choses, c'était pris comme si c'était de la merde, quoi, alors que c'est pas normal. En fait,
je trouve que
dans les entreprises, c'est pas assez. Les femmes, elles sont encore. Je trouve qu'on est encore à l'ancienne. C'est pas pris en compte. Enfin, c'est pas pris, vraiment sérieusement. Le cas qu'on soit maman et que c'est normal d'être maman, c'est normal que parfois on a le droit de pas être là. Que notre congé, si on veut rajouter des congés, que c'est normal. Ils nous regardent différemment. Je trouve que là, il y a une petite injustice et qu'ils sont pas encore. On n'est pas encore. On est encore à l'ancienne par rapport à ça, et ça, c'est pas normal du tout.
Tu es dans quel domaine?
Moi, j'étais dans le privé.
Ouais, ouais.
Et en fait.
Et sans te la faire sentir.
Bah oui, mais vraiment. C'est limite. Faut pas en parler, quoi, parce que c'est tellement normal que. C'est pas une excuse, on va dire.
C'est fou, parce que quand je t'écoute, j'ai des images qui défilent. Et, ça fait rappeler l'ancien temps. Le temps des grands-mères. Alors, je ne sais pas quel âge que tu as.
25.
Tu es toute jeune. Donc, de ta grand-mère, on va dire. Hein, tu vois, cette époque où... Non, mais ça veut dire que ça n'a pas vraiment changé. Et tu as raison de
mentionner... Mais c'est ça, ça a mentionné. Pas changé au niveau des hommes.
Oui, parce que...
Nous, les femmes, oui.
Oui, parce qu'à l'époque de ta grand-mère... Eh bien, c'était tout à fait normal. Et les femmes n'osaient pas revendiquer parce que c'était tellement rentré dans les mœurs qu'elles ne pouvaient pas... Elles-mêmes, elles trouvaient que c'était normal de travailler à l'extérieur, à l'intérieur, et que les hommes rentraient à l'époque. C'était juste pour se mettre les pieds sous la table. Ils étaient fatigués, les pauvres. Et il fallait surtout pas les bousculer. Limite, on leur enlevait leurs bottes, leurs chaussures. Tu vois, elles étaient pas... C'était pas de la soumission, mais pas loin, tu vois. Et donc, ils n'avaient, à la maison, ils ne partageaient aucune activité, rien.
C'est ça?
Ah oui, mais ils faisaient rien à l'époque. Et là, ce que tu décris, tu sais ce qui se passe, en fait, à t'écouter, c'est que les hommes dans ton travail que tu rencontres, hein, pour certains, eh bien, c'est un héritage, en fait. Ils ont hérité ça de les grands-pères, de génération en génération. Et c'est un... Alors, aujourd'hui, ils sont bousculés parce qu'ils comprennent pas. Parce que je te dis quelque chose de vrai. Je te dis, ils comprennent pas qu'on puisse tomber enceinte. Ils savent pas ce que c'est, ça c'est sûr. Et puis après, après un accouchement, c'est tout un chamboulement. Plus le bébé, plus beaucoup de choses autour, etc. Tenir à l'intérieur. Ils s'imaginent pas parce que leur grand-mère fonctionnait très bien comme ça et qu'elle se plaignait pas et qu'aujourd'hui vous osez vous plaindre. Cette génération, vous êtes des martiennes.
Et en plus, je trouve que c'est pas autant. C'est encore un peu en retrait, hein, parce que franchement, moi, ça m'a choquée. J'ai 25 ans, j'ai eu un enfant. ça m'a choquée que, par exemple, je demandais des choses par rapport, c'est nouveau, le temps de s'adapter, par exemple, demander un peu plus de télétravail ou quoi, non, ça passait pas, bon après ça j'ai rien dit, mais par exemple de vouloir, moi honnêtement j'ai voulu faire une rupture et m'approcher de chez moi parce que c'était loin, mon travail c'était à une heure et vu que j'ai un enfant, fallait que je me rapproche. Ils l'ont mal pris, ils m'ont dit non, ça, être maman, ça, en fait, ça, enfin, c'est pas une excuse d'arrêter et de voilà et de d'être en rupture, enfin, être au chômage un certain temps, le temps de s'adapter, que ouais, que la société de maintenant, c'était n'importe quoi, que les mères de maintenant, elles sont trop, voilà, elles donnent tout pour leurs enfants, alors qu'avant ils donnaient tout pour le travail.
Ah bah voilà.
Enfin, il m'a dit des choses où ça m'a choquée.
C'est incroyable.
Je me suis dit, c'est chaud qu'en 2023, ils pensent ça.
Eh oui.
Ils disent ouais. Enfin voilà, il a dit plein de choses par rapport aux mamans. En fait, ça m'a tellement choquée. Et, et je trouve que. Et ça, pour moi, c'est une inégalité. Genre, ça, c'est pas normal que des hommes, ils pensent comme ça. Ils nous écrasent parce qu'on devient maman. Et en fait, ils n'acceptent pas que c'est dur. Ils pensent, comme vous avez dit, qu'avant, oui, elles arrivent à gérer. Que maintenant, c'est aussi simple qu'on peut faire les deux, travailler, c'est à 8 heures, rentrer à 20 heures, aller. C'est dur. Et ils ne le comprennent pas. Et ça, je trouve que. Que ça, c'est pas normal, ça m'a choquée.
C'est presque après, discriminatoire comme propos. Je dirais.
Bah, oui.
Alors, avant, les femmes pouvaient assumer, mais c'était compliqué pour elles, les femmes. Parce qu'on ne leur donnait pas le choix. On ne leur donnait pas le choix. Ouais. Et d'ailleurs, quand on parle de divorce, avant, alors souvent, il y a les hommes, certains, hein, qui osent. Voilà, eh bien, qui disent oui, aujourd'hui, les femmes en demandent trop. Ça divorce facilement, etc.
Oui, exactement.
Alors que avant, nos mères, nos grand-mères ne divorçaient pas.
C'est exactement.
Mais c'est parce qu'on leur donnait pas le choix. Avant, le divorce c'était quelque chose d'exceptionnel, de tabou déjà, de tabou parce qu'on n'en pas. Et ça se faisait pas une femme divorcée, tu vois. Rien que le fait de dire femme divorcée avant, c'était dans la famille, c'était quelque chose de très grave. On avait honte de, tu vois.
Ça jetait
l'opprobre, ça jetait, si tu veux, la honte sur la famille. Mais aujourd'hui. Heureusement, il n'en est rien. Mais si elles avaient la possibilité, nos mères, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, de vivre ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, bien sûr qu'elles auraient sauté sur l'occasion pour pouvoir défendre leurs droits.
Exactement.
Et tu as raison, 25 ans, tu as raison, Faïza, de défendre tes droits, de ne pas te laisser faire et de remettre
ça a été dit par un homme, ça aurait été une femme, bon, mais qu'un homme me dise ça, me dise des choses trop, enfin, ça m'a choquée, enfin, de me dire oui, t'as qu'à prendre une nounou, je lui dis oui, mais j'ai pas forcément les moyens, on t'a pas demandé de faire un enfant,
quoi,
d'un homme, et je me dis ça doit pas être le seul qui le pense, on va pas en parler, mais
est-ce qu'il a des enfants, il a des enfants lui.
Oui, il a des enfants.
Ah oui.
Il dit ses enfants.
Bah, j'aimerais pas être sa femme.
Apparemment, ses enfants, pour lui, c'est sacrifié pour son travail, que maintenant, les jeunes de maintenant, ils sacrifient pour leurs enfants. Voilà, des choses comme ça. Donc,
mais c'est normal. La vie est dure aujourd'hui. Pour éduquer un enfant, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Avant, avec peu de moyens, eh bien, les enfants grandissaient, tout le monde était allié à la même enseigne. C'était plus les mêmes besoins, mais aujourd'hui il y a d'autres besoins qui sont arrivés et on peut pas les contourner, c'est pas possible. Et la vie aujourd'hui elle est plus difficile, il y a du chômage, il faut s'accrocher et puis éduquer un enfant, c'est ça relève vraiment de comment dire, c'est comme des.
Je trouve que c'est pas assez dit, mais c'est quand même assez dur, c'est un rythme.
Bien sûr que c'est dur.
Surtout d'adaptation, et je trouve que c'est.
Et puis vous les femmes jeunes. Comme toi, aujourd'hui, cette nouvelle génération, très honnêtement, vous êtes des femmes vraiment très courageuses, parce que vous vivez une époque très compliquée, elle est charnière, cette époque. Ma génération, j'ai pas connu cette époque. Hein. Cette époque, elle est très, très, très compliquée pour vous. Donc, vous battez contre tout. Et puis, en plus, vous restez toujours quand même à vous battre, à lutter pour cette égalité.
Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est que ça. J'ai l'impression que pour tout, je me bats.
Mais donc, est-ce que ton mari, toi, à la maison... Tu es mariée, tu as eu un enfant ?
Oui, je suis mariée, oui.
Et ça se passe, comment ça se passe ? Il t'aide, ton mari
Franchement, il m'aide beaucoup.
Ah.
Oui, franchement, alhamdoulilah, il m'aide beaucoup. Mais juste, moi, c'était vraiment par rapport à mon travail. Et que d'avoir un enfant, que apparemment, le congé maternité, je les ai laissés en plan.
C'est un cadeau, quoi.
Je suis désolée, mais un congé maternité, j'ai pas le choix. C'est un congé maternité.
Ah, mais donc, bon, c'est la loi, hein, je veux dire.
Enfin, mais moi, ça m'a choqué. Je me dis, si moi-même, on est beaucoup mères, si moi, on m'a fait ça, j'imagine pas combien de personnes aussi. Et
mais c'est
pas
très
normal.
Grave. Parce en plus, cette phrase qui est, comment dire, mais alors vraiment une phrase plus que blessante, hein, vraiment, c'est une balle qui est sortie d'un fusil. Quand il te dit, on vous a pas demandé de faire un enfant.
Ah oui, comme ça. Ah oui, nous.
C'est incroyable.
Mais
ça.
Nous, on vous a pas demandé de faire un enfant. C'est pas.
Mais c'est incroyable.
Voilà. Mais,
il manquait plus que tu demandes de l'autorisation. Ouais. Ah, c'est incroyable.
Oui, c'est ça. En vrai, enfin, voilà, j'espère que.
Et est-ce que les autres femmes dans ton entreprise, elles subissent la même chose, pareil.
Ouais, parce que moi j'en ai parlé autour.
Oui.
Oui, c'est juste que j'étais pas maman. Pardon, ça me concerne. Enfin, je veux dire, ça me concerne pas, mais j'en parlais pas. Mais dès lors où j'ai été maman, où j'en ai parlé avec les mamans, ils m'ont dit, mais oui, depuis longtemps, ils nous font la misère par rapport à ça. Hein.
Ah oui.
J'étais choquée.
Ah oui. Et donc plusieurs hommes ou celui que tu.
Là pour le moment c'est le même homme.
Mais après, il a des responsabilités, cet homme ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui. C'est pas le président de la société, mais c'est le directeur. Mais oui.
C'est incroyable,
lui,
vraiment.
Ouais. Mais lui, il est soutenu par les responsables, etc. Donc, c'est pas normal.
Non, c'est pas normal. Alors, j'ai Samia, notre conductrice de bus, qui envoie un message, alors, qui t'est adressé. Alors, elle dit : Faïza, il n'y a pas de délégué syndical dans ta société, demande-t-elle.
Si, mais pas de délégué, on a le comité d'entreprise, le CSE, mais en fait, ils ont peur de lui, j'ai l'impression, parce que j'en ai parlé, mais personne n'a osé lui dire, et ils m'ont dit, donc, tant pis, tu t'en vas, c'est pas grave.
Tu t'en vas, c'est-à-dire
c'est bon, tu t'en fous. Bah, parce que je comptais partir, en fait.
Tu veux partir ça, ah oui, tu vois,
Ah oui, ça y est, je suis partie.
En fait, ce genre de personnes, si je comprends bien, ils agissent de cette manière-là, pour décourager les femmes à rester et pour les encourager surtout à partir. En fait, c'est réussi, ça marche puisque tu pars. En fait, c'est ça. Quand vous avez des enfants, pour certaines, je dis pas que tout le monde agit de la même manière, mais certaines, dans certaines sociétés, je sais pas, eh bien, ça dérange. Ça dérange au point où il y a une forme de harcèlement quand même, hein, parce que j'entends bien qu'il y a du harcèlement. Hein. Donc, pour vous décourager et vous encourager à partir. C'est ça, en fait. Hein. Donc, puisque toi, tu pars, ça veut dire que ça y est, quoi. Enfin, il a réussi. Pour être poli, il a réussi son coup, quoi. Tu vois ?
Ouais, peut-être, c'est vrai. Hein. Mais je trouve que ça les dérange. Hein, et ça les arrange. Et ça les dérange pour sa mère et ça les arrange qu'on parte. Parce que déjà, par exemple, quand on veut un nouveau travail, mais quand on précise, moi, quand j'ai fait une recherche, que j'ai un bébé, petit, j'ai l'impression que, voilà, ils vont prendre plus quelqu'un qui a pas d'enfant ou que ça, parce que pour eux, ça leur fait beaucoup de travail ou, par exemple, ils vont avoir peur qu'on soit pas là pour l'enfant qui soit malade. Et je trouve qu'en 2023, c'est pas normal et que nous, on stresse parce que notre enfant, il est malade.
T'as pas le choix.
Et voilà.
Et oui.
Je sais pas si c'est encore le même sujet, mais je trouve. Mais si pareil,
c'est
un homme. Les femmes vont un peu plus comprendre, mais les hommes, c'est pas normal. Si on tombe sur des entreprises, notre directeur, c'est un homme, et que voilà, il a peur, enfin, il veut pas nous prendre parce qu'on a un petit enfant, ou il a peur pour le futur, pardon. Mm-hmm. Je trouve que c'est normal, les mentalités devraient. On est en 2023. Et
en fait, elles n'ont pas vraiment évolué, chez certains.
Oui, et nous, moi, ça m'a stressée. Ça m'a. Voilà, j'étais. Je suis restée 8 mois après avoir accouché. Et juste de dire que mon enfant, il est malade, j'étais stressée. Ça me stressait, j'avais peur.
Alors, t'as ton enfant qui est malade, qui est quand même un moment stressant quand on a un enfant malade, parce qu'on a peur pour son enfant, le petit bout de chou. Donc, on le voit malade, on est stressé déjà soi-même. Voilà. Faut s'organiser. Et d'un autre côté, tu stresses parce que tu ne sais pas comment annoncer la nouvelle à ta hiérarchie. Oh là là, mon Dieu.
C'est plus pour l'autre que mon enfant.
Ah ouais, non, mais c'est. Faïza, est-ce que je peux me permettre de te garder si tu veux faire partie si tu veux participer à un débat, répondre. Tu veux bien ?
Oui, bien sûr.
D'accord. Alors ne pars pas, Faïza. Je te garde avec moi ce soir. J'en garde toujours une. Et Faïza, elle a ouvert le bal. Et c'est vrai ce qu'elle dit, hein, parce que bon, on parlait du féminisme, etc. Mais elle a raison. Elle a raison, Faïza. Et je suis sûre que parmi vous, beaucoup vivent la même chose. ce forme d'injustice qui ne dit pas son nom. C'est du sexisme, mesdames. On n'est pas encore arrivé. On est loin, loin, loin d'arriver à cette égalité promise, voyez-vous. Donc, Faïza, elle lutte. Elle se bat. Elle s'en va. Elle n'en peut plus. Et d'autres également. Vous en subissez. Venez. Venez apporter vos témoignages au 01 53 48 3000. Faïza, tu ne pars pas. On a Fatih juste après toi. On a Shana. Méziane aussi. Il a des choses à dire. Donc, ne partez pas. On a une petite pause. Hein? Non? Pas tout de suite la pause?
On a encore 2 minutes.
Ah, d'accord. Alors, on va prendre Fatih qui nous appelle du Blanc-Ménil. Shana juste après, parce que Fatih, ça fait un moment. Bonsoir, Fatih.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Fatih. Bienvenue à toi.
Bonsoir à Faïza également et à l'équipe.
Merci.
Alors, moi, je voulais intervenir par rapport à ce sujet qui est d'actualité. Et oui. Depuis la nuit des temps, j'allais dire. Le féminisme, pour moi, il est tronqué aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un terme qui veut tout et rien dire. Le féminisme, moi, je suis féministe, mais ce que vit Faïza, c'est du sexisme et rien d'autre.
C'est ça.
Elle a affaire à des goujats autour d'elle.
Terrible,
a bien fait de partir parce que je pense que c'est des gens qui en valent pas la peine. Et il y en a plein, malheureusement. Le féminisme, pour moi, c'est pas ça. Le féminisme, le vrai, dans ma tête, dans mon esprit à moi et ma façon de penser, c'est vraiment les droits, les mêmes droits pour les hommes et les femmes, mais avec leurs différences. On est différents. Les hommes et les femmes ne seront jamais égaux au sens comme l'entendent les femmes, par exemple, qui sont complètement, ils sont dans autre chose. C'est les femmes qui veulent détruire les hommes, moi je le dis. Ils veulent détruire l'image de l'homme, elles veulent dominer. Et c'est pas ça qu'il faut.
Oui.
On peut pas, parce que du coup, c'est complètement destructeur et puis ça veut plus rien dire.
Ça fait l'effet inverse et puis comme tu dis,
exactement.
Ça veut plus rien
en fait,
dire, c'est ça.
Le vrai féminisme, c'est d'obtenir les mêmes droits. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'une entreprise traite une femme comme Faïza l'a été. La maternité, ça fait partie du cycle de la vie et la femme, elle porte l'enfant. Voilà, elle l'a pas fait toute seule d'ailleurs. Donc voilà, pour moi le féminisme, le vrai, c'est de se battre pour ces droits-là.
Tu te rends compte, Fatih, quand même, son directeur qui lui dit.
Ouais. Mais ça c'est à la limite du harcèlement quand même, hein, parce que c'est très grave.
On ne vous a pas demandé de faire un enfant, quoi.
Ouais. Non, mais là je pense que c'est des goujats, hein. C'est vraiment. Là, pour le coup, moi, je pourrais pas travailler avec des gens comme ça, c'est pas possible.
En tout cas, il a tout fait
et
pour
qu'il faut pas se laisser faire.
Il a tout
il faut
fait
pas
pour
se laisser faire.
Il a fait tout pour la sortie, pour la pousser.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Donc c'est lui
malheureusement.
Qui a gagné, quoi.
Oui, tout à fait. Malheureusement, il y a beaucoup de sociétés, alors souvent des sociétés, des petites sociétés, souvent. Alors c'est pas toujours le cas, mais c'est un peu caché. Parce que ça, c'est devant un tribunal, ça se défend complètement. Et pour moi, le féminisme, oui, moi je suis pour, mais pas le féminisme comme je l'entends à la télévision en ce moment.
Le féminisme,
c'est des femmes
acharnées.
Qui ressemblent à des hommes et qui sont complètement dans autre chose. Elles ont une vengeance à prendre.
Ouais, c'est ça.
Très certainement c'est sur bon. Leur histoire, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'humanité est faite d'hommes et de femmes dans leurs différences et qui est complémentaire.
Oui,
donc c'est pas du tout. Je crois qu'elle se trompe de chemin en fait. Ça c'est mon avis.
Mais écoute, moi je le partage en tout cas ton avis. C'est comme
pour
ça
moi,
que
le combat,
vois le féminisme.
On n'arrivera à rien.
Voilà.
On n'arrivera à rien et c'est pire.
Ouais, c'est
parce
c'est
que ça déclenche chez certains hommes l'inverse.
C'est une guerre déclarée, quoi, et on n'a pas.
Exactement.
Hein, ça fait l'effet.
Il y a des femmes qui doivent subir aujourd'hui chez elles, peut-être parce que les hommes ont vécu des choses de la part d'autres femmes. Donc fait, c'est pour moi c'est un combat qui est à l'opposé de ce qui devrait se faire.
Exactement. Fatih, tu ne pars pas. On a une petite pause. Et là, on va te couper, sinon. Petite pause et on revient juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, chers amis, avec avec Fatih. Fatih qui n'avait, qui était. Allô. Je t'ai coupé. Oui. Désolée, hein, Fatih.
Non, il n'y a pas de souci. Oui, je vais pas, comment dire, occuper l'antenne trop longtemps. Juste, voilà, je voulais dire ça. Ça, c'est mon point de vue et j'espère que beaucoup de femmes le partagent. Il faut pas qu'on se trompe de combat, en fait. Non. Il faut vraiment que la société nous reconnaisse en tant que femmes avec nos droits, les mêmes droits que les hommes, mais dans notre différence, en respectant notre différence, j'allais dire humaine, hein, puisqu'on est des femmes et pas des hommes, et on ne sera jamais des hommes.
On veut vivre en femme et pas en homme. Hein.
Exactement. Non,
voilà, et puis c'est
donc
stéréotype.
Nos droits.
Oui, et puis c'est stéréotype qui, que, quoi. Je suis en train de réfléchir à une chose. Les dictateurs, ça a toujours été des hommes. Il n'y a pas eu de dictateur femme dans l'histoire,
oui.
N'est-ce pas?
Oui,
donc voilà. Alors donc ne tombons pas dans ce piège, hein, parce qu'il faut, on n'a pas besoin que l'histoire, eh bien, à venir, hein, dans le futur, avoir des dictateurs femmes. On a pas dictatrices, on va dire.
Mais complètement. Mais j'en veux pas. Mais moi, je rejette ça en bloc. Moi, j'enrage quand j'entends certaines femmes, parce que c'est tout ce qu'on déteste. Chez les hommes qui se comportent comme ça, en fait.
Ouais, non,
je comprends pas les femmes se dénuder, c'est salir l'image de la femme. La femme, c'est ne pas la respecter que de montrer des images comme ça. Et c'est pas la nudité en elle-même, c'est le fait de on a l'impression qu'on veut tout jeter pour reconstruire quelque chose qui n'existe pas, parce qu'elle veut construire un troisième sexe, on va dire ça, hein, des femmes surhommes, peut-être, je ne sais pas comment on peut dire. Enfin, c'est du grand n'importe quoi.
Ça ressemble à un féministe, comme tu disais tout à l'heure, revanchard, tu vois. Vraiment,
c'est ça, on a l'impression que c'est leur propre histoire, hein, parce qu'elles ont toutes le même physique, elles sont... Je suis pour le féminisme.
Je parle même pas de physique, parce que bon, peu importe, hein, comment on est. Mais c'est dans le comportement, et ce comportement qui veut que la femme, eh bien, arrive, peut-être qu'elle va arriver un jour, mais ça, ce serait dramatique. Tout à l'heure, je parlais de dictateur, mais dictatrice.
Ouais.
C'est pas quelque chose d'illusoire, ça peut arriver, hein. Qui l'a cru qu'on ait eu des monstres qui ont dirigé le monde et qui ont... Donc, faudrait pas qu'une femme, un jour, marque l'histoire par son passage, un passage sanglant, et on n'a pas besoin de ça, vraiment.
Non, c'est vrai. Je pensais pas à ça, mais c'est vrai. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Et juste pour finir, moi... un homme a besoin d'une femme, une femme a besoin d'un homme, et on vit dans une société où on doit partager les droits. Point.
Absolument. C'est tout. Écoute, c'est bien dit, en tout
cas. Chacun dans sa position.
Ben voilà, chacun sa
place.
Bravo. Bravo, Fatih, je partage tout.
Une bonne soirée.
Merci.
Et puis je continue de vous écouter comme d'habitude.
C'est très gentil. Je t'embrasse fort. Merci,
Fatih. Bonsoir à vous tous.
À bientôt.
Bonsoir.
Merci, au revoir. Elle a raison, Fatih, elle a raison, et c'est tellement logique tout ce qu'elle dit. 01 53 48 3000. Allez, venez, on vous attend. Shana qui est là. On a Azoul juste après, on a Mabrouk. Et les autres, je ne sais pas ce que vous faites. Allez, on se réveille. Bonsoir Shana.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir ma chérie, bienvenue.
Merci, ça va, tu vas bien?
Ça va et toi?
Bah écoute, je bosse. Hein. Donc là,
t'es dans ton bus? Ah,
oui, là, d'accord. À 22h, je commence mon service. Non, parce que j'ai écouté le témoignage de Faïza.
Oui.
Donc là, c'est pas la conductrice de bus qui va s'adresser à elle, c'est la déléguée syndicale. Et vraiment, il faut qu'elle sache, en France, il y a des droits. Il y a ce qu'on appelle l'inspection du travail. Et vraiment, quand des femmes subissent ce genre de choses au sein de leur société, il faut vraiment pas hésiter une seconde. Soit saisir les délégués syndicaux quand il y en a dans la société, mais sinon, il faut vraiment pas hésiter à saisir l'inspection du travail, parce que c'est pas normal. C'est discriminatoire. C'est pas du tout logique. Moi, honnêtement, je suis vraiment choquée. Parce que là, elle a poussé vers la sortie, alors qu'elle aurait pu aller au prud'homme et même gagner son procès.
Oui, mais enfin, bon, elle a pas
donc,
envie.
Quand on subit,
elle a peut-être pas envie, tu vois ce que je veux dire, se casser à la tête.
Non, mais je veux dire, quand on
elle est nouvellement maman, et elle. Voilà. Et puis,
oui, non, mais je suis d'accord, c'est juste pour faire comprendre à l'employeur que elle est dans son droit. Voilà, elle travaille, elle a le droit de
tout.
Et justement, je t'ai partagé un lien justement par rapport à ça. Vous savez qu'actuellement, en Espagne, ils sont en train de vous faire voter une loi pour les femmes qui ont des règles douloureuses.
Oui, j'ai
entendu ça. Donc justement, c'est une première en France, il y a une société qui vient de faire voter cette loi. Oui. Et justement, avec les autres élus de ma société, on est en train d'essayer justement de faire en sorte que quand les femmes, ben, elles ont leur règle, qu'elles puissent se reposer pendant 2-3 jours à la maison, parce qu'il y en a pour qui c'est pas évident, surtout dans notre métier, de pas trouver des toilettes. C'est un peu compliqué dans les gares, c'est pas toujours propre. Ah, voilà, donc je veux dire, c'est juste des droits. On travaille comme les hommes, on a les mêmes droits que les hommes, donc il faut juste faire valoir ces droits.
Adapter, oui. Alors, voilà, alors moi, j'imagine mal le directeur de Faiza. Alors là, il attrape un arrêt cardiaque, le gars. Hein, si on lui dit
bah, j'ai mis l'article
arrêt ouais, justement mais... pour monstru.
Mais tu sais que ça existe.
Alors imagine lui dit... déjà.
Mais
pour la naissance, tu sais, la maternité.
Mais tu sais, mais tu sais qu'au Japon, en Corée du Sud, ça existe depuis longtemps et les femmes viennent de voter la loi.
Ah bah ils sont en avance, bravo.
C'est tout à fait normal, il faut s'adapter aux femmes. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre une super bonne nouvelle. Comme il y a de plus en plus de femmes routiers, ben, il y a un constructeur qui vient de... Je t'enverrai la photo. Il a fabriqué un camion, un prototype avec des toilettes à l'intérieur de la cabine.
Oh,
pour que la
ça.
Femme ne se mette pas en danger, ça doit s'arrêter sur les heures d'autoroute pour aller aux toilettes.
C'est
et
génial.
Je trouve que c'est génial. La preuve qu'on avance, voilà, donc la preuve qu'on avance est que la femme, elle est reconnue en tant qu'elle, et qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes poids lourds qui vont jusqu'en Espagne, qui traversent toute l'Europe.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, on s'adapte. Je trouve que c'est très, très bien. Et des choses comme ça, on peut en parler. Ça prouve que les choses avancent, même s'il y a quelques directeurs qui sont un petit peu,
Il y en a encore qui sont s'accrochent. Au Moyen-Âge, on va dire.
Ouais. Voilà, donc c'est vraiment important qu'il y ait des choses bien qui sont faites dans ce sens. Comme moi, dans mon métier au départ, on n'avait pas des toilettes partout. Et bien maintenant, on a imposé qu'on ait des toilettes partout. Quand il n'y a pas de toilettes, ils ont signé des accords, comme par exemple à l'aéroport de Roissy, ils ont signé un accord avec l'hôtel Ibis, où on peut utiliser les toilettes de l'hôtel.
Ah oui, ça c'est une bonne chose.
Voilà, donc ils font vraiment plein de trucs pour que les femmes soient épanouies dans le métier qu'elles ont choisi.
Ben, surtout s'adapter à la nature humaine, j'ai envie de dire, c'est tellement simple. C'est béaba. C'est vrai, un homme, c'est simple. Je veux dire, un routier, tiens, en prenant les routiers, parce qu'il y a des femmes routiers, on en a qui nous appellent à l'antenne et tout, on les salue, on les embrasse. Eh bien, un homme qui exerce ce genre de métier, mais c'est facile pour lui. On sait très bien. On sait très bien comment que ça se passe, mais oui.
C'est
naturel. Alors, appelons un chat, mais pour un homme uriner, c'est facile. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple, quoi. Voilà.
Alors, non,
alors que pour une femme, c'est tout un truc. Et en plus, quand elle a ses menstrues, etc., etc. Mais comment on n'y a pas pensé plus tôt? Voilà, moi,
Et c'est pour ça que je trouve que ce camion avec prototype, je trouvais ça génial. Et dans mon métier, les choses évoluent aussi. Et je trouve que c'est bien. Ça prouve que la société, je pense qu'aujourd'hui, l'homme et la femme, on les a mis pour ma part, parce que moi, je fais quand même un métier d'homme. Et honnêtement, j'ai jamais senti la différence avec mes collègues. Et je trouve qu'aujourd'hui, la société, elle a bien avancé.
Oui.
Et qu'on arrive quand même à mettre les hommes et les femmes au même pied d'égalité.
Et j'ai envie de dire que tu fais un métier d'humain. Parce que tu rends service aux humains. Tu conduis un bus. Avant, c'est vrai, regarde le réflexe que tu as eu. Parce que ça, c'est un réflexe, on va dire, presque naturel. Tellement on n'a pas été habitué à voir des femmes qui conduisent des bus ou des camions ou tout ce qu'on veut. Donc tu as dit c'est un métier d'homme. C'était un métier d'homme parce que les hommes vous ont fait croire, nous ont fait.
Quand je suis rentrée dans ma boîte.
Mais c'est les hommes. mais c'est les hommes qui ont instauré cette mentalité et cette idée, cette pensée. Donc le réflexe qu'on a, c'est conductrice de bus. Pour une femme. Routier, une femme. C'est incroyable, tu vois, exceptionnel.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se batte pour dire de ne pas hésiter
ils
à
aller vers ces métiers-là.
Voilà, c'est des métiers géniaux, il ne faut vraiment pas hésiter.
Mais c'est des métiers humains.
Tous les jours pour recruter des femmes et je trouve que ça apporte une touche. Même ma direction le dit, une femme, ça apporte une touche supplémentaire. Et d'ailleurs, les clients sont très, très contents.
Ben oui, il y a l'équilibre.
La conduite est beaucoup plus souple, il y a l'accueil, il y a le sourire. Et puis les femmes gèrent beaucoup mieux le stress que les hommes. Moi, par exemple, je ne vais pas au conflit. On m'insulte, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Alors qu'un homme, il y a le côté homme qui va ressortir, donc ça va aller tout de suite au conflit.
C'est
vrai qu'aujourd'hui, on recrute énormément de femmes, ce qui trouve qu'on arrive vraiment à mieux canaliser la clientèle par rapport aux hommes. Donc, mesdames, n'hésitez pas, c'est un métier génial, je vous le recommande. Je fais de la publicité,
là. C'est Shana qui le dit, et elle le dit bien. Merci, je t'embrasse.
Tu recrutes énormément dans ce métier, donc s'il y a des femmes qui galèrent pour trouver du boulot, n'hésitez pas.
Formidable.
Et je t'avais mis le lien, d'ailleurs, sur ton Facebook. Parce que
génial,
on
va le retrouver.
La formation est payée, vous avez un CD à la clé.
Écoute, merci pour tes encouragements et tes idées.
Très, très, très bonne
soirée. Toi aussi, bon courage pour ce soir,
merci,
Shana.
Gros bisous.
Gros bisous, à bientôt, ma chérie. Elle va reprendre le service, là, voilà, elle va prendre son bus, elle va conduire les gens toute la nuit. Voilà, Shana, vous voyez, paf. On est capable de faire les choses comme vous, les hommes. C'est comme ça. Mais c'est encore triste, hein, quand même, hein, que Faïza, elle est plus là, Faïza, ma petite Faïza. Faïza, non, mais c'est fou, ça. Son directeur qui lui dit, on vous a pas demandé de faire un enfant. Non, mais attendez, c'est pas possible. En 2023, hein. Mais Ziane, tu pars pas. Mabrouk, bonsoir Mabrouk.
Bonsoir,
Mabrouk, Mabrouk. Bonsoir, bienvenue à toi.
Merci.
Je t'en prie.
Du coup, j'ai pas suivi l'histoire dès le début, mais j'ai juste compris, résumé, que c'était une dame qui s'est... Bon, on l'a poussée à ce qu'elle démissionne, c'est ça?
Bah, c'est elle, elle en a marre, elle a raison, elle veut partir, parce que la directeur, ouais, elle a eu un enfant et est tombée enceinte. Enfin, voilà, le ouais. Comment dire, le drame du siècle, tu vois, la catastrophe, la faute impardonnable de cette femme, cette jeune femme de 25 ans, c'est de s'être mariée, d'avoir fait un enfant. Alors, faire un enfant, pour certains responsables de société, bah. Eh ben, c'est une faute grave, apparemment. Ils le disent pas ouvertement, parce que, bien sûr, pas de traces. Mais indirectement, voilà, s'empêche pas, quoi. Oui.
Je me demande si, bon, je sais pas si là, je sais pas pourquoi elle a pas pensé au prud'homme et de rester jusqu'à ce qu'on la pousse vraiment avec des traces écrites ou elle a pas essayé d'envoyer des mails.
Mais
ou,
tu sais, tu as des gens, tout le monde n'est pas procédurier. Moi, je les comprends. Ils sont pas procéduriers et ils ont pas envie de se casser la tête. Donc, elle est jeune, elle préfère partir, trouver un autre job et être tranquille. Parce que c'est tout un truc aussi, tu sais. Prud'homme, c'est quand même la justice, ça peut durer, des fois ça dure des années, donc il y en a qui. Mais quand c'est des choses graves, je peux comprendre. Mais quand c'est des trucs comme ça, je peux la comprendre, hein, parce qu'elle m'a expliqué, hein. Parce qu'on lui a parlé tout à l'heure de syndicat, tout ça, une auditrice, et elle a dit non, je préfère partir, je suis tranquille, comme ça, trouver autre chose. Voilà. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de traces écrites, il n'y a pas de. Donc, c'est des petits bouts de phrases comme ça, jetés à la volée, qui font mal et qui blessent.
Il y a un autre scénario aussi où elle pourrait saisir les organismes qui sont compétents, par exemple l'inspection de travail, comme elle a dit l'intervenant d'avant. Chana, oui. Et d'ailleurs, il y avait Fatih qui a très très bien parlé, elle a très bien résumé c'est quoi le féminisme et c'est quoi comment il faut penser. Donc je la salue. Et, du coup, je disais que il y a, par exemple, l'inspection de travail. Où je sais pas comment ça fonctionne en France. Je m'y connais pas trop parce que ça fait que 2 ans que je travaille en France.
D'accord.
Bon, moi, par contre, je sais. Moi, j'envoie des mails au patron. Je sais qu'il ne lit pas. Mais par contre, le jour où il viendra me chercher et il voudra me chercher, je lui sortirai tout ce qu'il fallait.
Bah oui.
Donc, on m'a appris ça en fait dès le premier jour. On m'a dit bon après parce que j'ai une amie qui est juriste. Marié, des avocats et tout.
D'accord.
On m'a expliqué comment il faut procéder et tout ça.
Ah ouais.
Parce que on travaille toujours. Il y a toujours les patrons. Il y a des patrons qui sont honnêtes, mais la plupart, ils sont malins en fait. Et quand ils veulent te virer, ils trouvent une. Malgré on est compétent, on fait tout pour les protéger et tout. Mais pour eux, ils s'en foutent. Moi, il me l'a dit clair et net. Il m'a dit un jour quand il a fait. Bon, j'étais en train de négocier mon salaire pour la deuxième année. Il me dit. Oui, je te pose une question. Imaginez-vous, hein, moi, en tant qu'homme aussi, on me pose ce genre de truc débile.
Oui.
Il me dit, on prendrait qui, celui qui est en costard, qui n'a rien en tête, ou celui qui vient en jeans déchiré, qui a beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de compétences et beaucoup de choses en tête. Je regardais mes jeans, je me suis dit, bon, peut-être il y a un petit trou, je ne le vois pas. Où il parle de mon collègue. Bon, après, j'ai dit, OK. Je dis, avant de répondre à ta question, est-ce que tu as déjà fait un entretien dans ta vie? Il m'a dit, parce qu'on m'a posé cette question lors d'un entretien.
C'est
je lui dis, je croyais que t'étais dans l'entreprise familiale. Il me dit, non, machin et tout, comment c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tous malins, en fait, les patrons. Et après, je lui ai répondu, bien sûr, pour les protocoles, on me prendra celui qui est en costard. Et pour revenir à l'histoire de la dame, en France, je ne sais pas si l'inspection de travail, elle pourrait envoyer des investigateurs ou autres pour éliminer administrativement,
oui.
ce patron. Je ne sais pas, c'était une entreprise privée ou...
C'est une entreprise privée, voilà, oui.
Okay.
C'est une petite entreprise privée.
Tant que c'est une entreprise privée, je pense que... Bon, après... Je pense que c'est jouable. Là, il y a l'inspection de travail qui ont des enquêteurs ou autre chose. Mmh. Et sinon, elle a un autre scénario aussi, de trouver des témoignages ou bien des anciennes qui travaillaient dans la même entreprise qui peuvent témoigner contre lui. Et voilà. Après, bon, après, si elle veut pas faire ça, ça c'est autre chose.
Oui, non, elle est pas prête à. Oui, elle préfère partir. Bon, c'est son choix. Mais c'est vrai que on n'a pas avancé encore, hein, parce que franchement, dire à une femme, on t'a pas demandé de faire un enfant. Je veux dire, c'est violent, hein, déjà. Hein, c'est violent.
Les gens, ils savent pas ce qui sort de leur bouche. Hein.
Bah oui.
Moi, je subis des choses avec le patron pour qui je bosse, mais il vient toujours bourré et tout ça, mais je me dis, bon, je fais comme si j'ai pas écouté, et je fais mes choses à ma manière. Tout le monde en a marre de lui. Là, pendant la même année, il y en a, je pense qu'il y en a 8 qui ont démissionné.
Mabrouk, tu pars pas, on a une pause. Tu ne pars pas. On a une petite pause. Donc on a Mabrouk, on a Méziane et les autres, on vous attend au 0153 48 3000. Allez, allez, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 0153 48 3000, on est avec Mabrouk. Allez, on est là, il reste de la place au standard, on vous attend. Méziane juste après. Mabrouk, alors donc, oui, je te laisse continuer. Tu es là, Mabrouk?
Oui, je suis là.
Oui, tu es là.
Je vais rentrer chez moi.
Alors, oui.
En fait, elle est dans quel domaine, cette dame?
Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas poser la question, à vrai dire. Okay. Je ne sais pas si elle avait
Après,
envie de le dire
si
ou
besoin,
pas.
Ouais. Si elle est en architecture ou elle est plutôt dans l'administration.
Je ne sais pas.
Ou bien dans le bâtiment, je pourrais appuyer son CV au niveau de notre entreprise si elle n'est pas en poste.
Ah oui. Ah ben bah, écoute, c'est vraiment sympa, hein, ta part.
Ok.
Te proposer vraiment.
Après, on est là. Hein, on s'entraide.
Oui. Voilà. Ah bah écoute, c'est gentil. Donc, tu es dans quel secteur?
Moi, je suis l'entreprise pour laquelle je bosse. C'est
sans donner de nom, hein, c'est juste...
Non, non, mais je m'en fous, j'assume tout ce que je dis.
Oui.
C'est le 94.
D'accord. Alors donc, tu pourrais l'appuyer?
Oui, je pourrais l'appuyer parce que je sais qu'on est en manque d'effectifs d'administrateurs. Après, il faut juste que son CV corresponde.
D'accord.
Si c'est le cas, vous pouvez me contacter ou...
Bah écoute, je note ton numéro.
Mon déplacement à l'étranger, c'est 2 jours. Je pars en Belgique, je reviens.
D'accord. Ah, oh bah c'est bien. Tu vas avoir du beau temps.
Ouf, c'est juste pour un truc familier.
Ah oui, d'accord. Bah c'est bien. C'est bien. C'est pour voir la famille.
Ouais.
Ok, Mabrouk.
Merci.
C'est très gentil. Bonsoir, merci bonsoir, à toi, en tout cas. Merci infiniment.
Merci,
bonne soirée, à bientôt.
Également.
Au revoir. Merci. Très gentil, très sympa, notre ami Mabrouk. C'est ça, la solidarité. Très important. Se soutenir les uns les autres. Allez, 0153 48 3000, on parlait de féminisme. Alors, le féminisme actuel, peut-on avoir le droit à notre époque d'être femme sans être féministe? Quand on entend par féminisme, bah, le féminisme, Fatih, moi je le trouve formidable. Hein. Féminisme apaisé, serein, voilà. Les hommes ne sont pas nos ennemis, ils sont nos égaux. Alors qu'il y a un autre féminisme, c'est vrai, le féminisme acharné, alors celui-là est hard. Hein. Bonsoir Méziane, Azoul.
Oui, allô, oui, bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Méziane, comment vas-tu?
Bonsoir, merci.
T'as une petite voix.
Ben oui, hein. Je change de personnalité.
Tu te la ramènes pas ce soir, tu entends féminisme, tu dis ben...
Non, ça, moi ça me dérange pas, non. Non, ben écoute, c'est pas nouveau, hein, ces histoires-là, hein, Il y a des êtres humains qui s'imaginent pas qu'une femme peut avoir un enfant et avoir des jours où elle peut pas venir parce que son enfant est malade. Quand on embauche une femme, forcément, on doit s'y attendre un jour.
Oui, et puis c'est normal.
C'est partie de la vie. Lui, ouais. quand il est né, il est né d'une femme aussi, non? Son patron.
Ah oui, mais tu sais les gens. Malheureusement.
Non, il a oublié.
Bah ouais,
et peut-être qu'il a eu des enfants et que sa femme, quand son fils ou sa fille était malade, son bébé, il était bien content qu'elle reste auprès de son enfant à la maison.
Ah ben bah oui, sûrement. Ça,
ça appelle ça des égoïstes.
C'est ça.
Maintenant,
bah oui.
C'est vrai qu'une entreprise, elle regarde ses intérêts, mais plus fort que les intérêts, c'est la vie humaine.
Oui.
Ça, ça passe avant tout le pognon, tout l'argent, le bénéfice. Mais bon, il y a des règles, il y a des lois.
Il faut
savoir se faire respecter aussi. Hein.
La société humaine est une société qui est, comment dire, alors ça, il faut trouver le mot juste, qui a du mal à s'adapter à la vie sur Terre. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. la société, parce que les animaux sont très, ils ont pas besoin d'aller dans une école, une université ou quoi que ce soit, tu vois, pour connaître les règles et de la nature. Donc ils sont en osmose avec la nature, tout va bien. Ils sont adaptés, qu'ils soient dans l'eau, dans les airs ou sur terre. Ils sont
oui,
adaptés.
Mais nous,
les humains, juste pour dire ça, nous les humains, oui, on a du mal. Parce que quand on voit, par exemple, quand mettre au monde un enfant, mettre au monde chez les animaux, ils mettent au monde, etc. Chacun respecte le territoire de l'autre, etc. Nous, on n'arrive pas. Soi-disant qu'on est doté de la pensée, c'est-à-dire qu'on est des êtres supérieurs. On n'arrive même pas à imaginer
et
à respecter une vie humaine. Un patron qui a une employée qui met au monde un enfant, quoi de plus naturel? Être en harmonie avec la nature. C'est accepter
les
valeurs de la nature, oui.
Mais Vanessa. T'es parti dans une histoire sans fin. Tu veux comparer les animaux et les humains. La première des choses, c'est que les animaux n'ont pas de salaire. Ils ne sont pas payés. Ils travaillent gratuitement. Comment tu veux comparer?
Non, mais c'est pas ça. C'est le matériel.
Mais non, mais il y a de l'argent avec les humains. Non, mais il y a des échanges.
Tu as dit une chose avant.
Tu fais un travail, je te paye.
Oui, mais tu as dit juste une chose. Non, tu as dit, ils oublient les valeurs humaines. Non, ils ont oublié d'où ils viennent, d'un papa, qui viennent d'une maman, eux aussi. Alors, donc, oui, fut un temps où nous avions peut-être un peu plus, disons, d'humanité et plus de bon sens, sans aller forcément, sans pousser les études, hein, parce que nos grands-parents, ils n'ont pas fait d'études, mais ils avaient du bon sens.
Bah, bien sûr.
Mais aujourd'hui, le bon sens, plus on a des études et plus on est par des diplômes, et moins le bon sens est présent, c'est ça.
Non, c'est compliqué, cette affaire-là, parce que, je veux te dire, déjà, je te parle d'il y a 50, 60 ans ou 100 ans en arrière, il y a très peu de femmes qui travaillaient. Hein. Il y a plus d'hommes.
Même celles qui travaillaient, c'était très compliqué avant. C'est vrai que c'était très compliqué. Regarde, exemple, toi qui viens d'une région des montagnes, c'est compliqué.
Elles travaillaient à la ferme.
Elles travaillaient durement, elles allaient chercher l'eau.
Elles travaillaient dans les champs.
Et elles allaient chercher l'eau avec le bébé. Avec le tissu là, attaché dans le dos.
Oui, comme les Africaines.
Les bébés lui-même travaillaient, déjà.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est des femmes qui travaillent durement la terre.
Ah, oui.
Donc c'est des femmes qui ont toujours souffert.
Moi, je me rappelle, ma mère, ma grand-mère, elle fauchait des blés, elle faisait des, comment on appelle ça, les fenaisons, tu sais, les foins.
Ah oui. Mais tu vois.
Elle faisait des travaux de paysannerie, la cueillette des olives, tous les travaux paysans quoi qu'il pouvait y avoir.
Qui sont très durs.
L'ordinage. Et même l'élevage, avec des poules, des lapins, des chèvres.
On se demande comment elle faisait.
C'est un travail aussi.
Ben c'est plus qu'un travail. Comment elle faisait?
Eh oui.
Pour être partout comme ça, c'est énorme.
Nous, on a toujours eu des animaux chez nous. D'ailleurs, moi, je suis d'une famille de maquignons.
D'accord.
Eh oui.
Donc, vous avez des...
Pas les bœufs, hein, les moutons.
Des moutons, d'accord. Des chèvres et des moutons.
Ah oui. Moi, j'ai... Mon père était berger. Quand il était enfant. Bon, il est venu en France, il avait 18 ans, mais c'est toute une histoire. Pourquoi il est venu en France? C'était pour échapper à l'administration militaire française, pour ne pas faire la guerre d'Abdelkrim au Maroc.
D'accord.
Et il a changé de nom, de d'acte d'extrait de naissance.
Ok.
Et il est venu en France avec le nom d'un autre. Et il a travaillé pendant 10 ans à Lyon. Et à la gare, à la gare Saint-Lazare, comme trésorier.
Ah.
Mon père était lettré, hein.
Oui.
Il a eu des problèmes, les flics l'ont attrapé, il a été en tôle, il a même été envoyé à Cayenne, d'accord.
Ah oui.
Oui.
Pendant la guerre.
Il a fait 22 ans.
Waouh. Ah ouais. 22 ans.
Ouais, 22 ans. Ouais.
Il a fait 22 ans
à Cayenne.
Il a été ce qu'on appelait déporté, je crois. C'est comme ça qu'on disait, non?
Oui, il y a une grosse histoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a balancé, il y a eu des règlements de compte. Bon, c'était il était politisé, mon père.
Ah oui, d'accord. Mais, 20, mais 22 ans, c'est énorme. Oh ah, c'est-à-dire que pendant 22 ans, vous ne l'avez pas vu, quoi.
Eh oui. Et pour te dire, c'est tu ne vas pas me croire, c'est un ami de Papillon.
Ah oui,
oui.
Ah ouais.
Eh oui.
Ah d'accord.
Eh oui, c'est un ami.
Ah, c'est du lourd, ça.
Eh oui, eh oui.
Ah, t'es
oui,
pas
oui,
n'importe qui, alors.
Eh oui.
Bon,
oui,
bah
oui,
écoute, je vais commencer à te vous voyez là, du coup. Ah ouais, carrément.
Je te jure, voilà, c'est la vérité, c'est ce que je
ah non, mais je te crois, Papillon est passé par Cayenne, hein, de toute façon.
Eh oui,
hein,
oui, je te dis, c'était des amis.
Ah oui, oh, c'est marrant, ça.
Et je connaissais là-bas.
Ah, il t'a raconté, alors, des oui, anecdotes.
Oui, 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 oui.
Ah, c'est, oui, oui. Ah, c'est incroyable.
C'était, enfin, pour te dire,
c'était là, des là, bagnards, on disait. Hein?
Oui, oui. Enfin, pour te dire, là, l'histoire des Maquignons, à l'époque, nous, on vivait en Kabylie. Hein. Enfin, moi, j'étais pas né. Hein. Mais il y avait les, comment on appelle ça, tout était paysan. Il n'y avait pas d'usine, rien.
Et oui.
À la montagne. Oui. Tout était produit sur place, c'est-à-dire là. Tous les artisanats, les marmites, les jarres, tout ce que tu
tout
veux.
Tout était fait, pour l'eau, c'est vrai.
Les assiettes en bois.
Oui, les cuillères.
Ou en terre, les cuillères.
Ouais.
Tout était fabriqué sur place.
C'est ça.
Il n'y avait pas d'industrie, manufacture ou un truc comme ça.
Mm-hmm. C'est vrai que... Et puis c'était... J'ai l'impression que c'était meilleur, ce qu'on faisait cuire à l'intérieur.
Bah, c'était vraiment... C'est écologique.
Hein. Il y avait plus de saveur.
C'est bio.
Mm-hmm. C'est vrai.
Et bon, les femmes allaient chercher de l'eau.
Oui.
Moi, j'étais petit. Hein. Ma mère allait chercher de l'eau dans un... Nous, on appelle ça un kabyle chmour. C'est comme une jarre en terre.
Ah oui, d'accord.
Mm. En terre, en argile.
Oui.
Elle mettait de l'eau. Et l'eau se gardait très bien fraîche dans ce genre de...
Oui.
De machin.
Il y a de l'eau qu'on met dans la peau de chèvre.
Ah oui, il y a ça aussi, oui. Non, on appelle ça...
Je sais pas ce que
comment
c'est.
On appelle ça, j'ai oublié le nom. Oui, on avait ça aussi.
Ah, une peau de chèvre ou...
Ça, c'est
comme une gourde.
Allais,
c'était les gourdes.
Voyager, tu l'emmenais avec toi, comme
voilà,
ça.
Voilà, une gourde. Hein, c'était la gourde de l'époque.
Oui, oui. Oui, oui. Oui,
oui.
Nous, on avait ça aussi, oui.
Oui, tu vois, ils s'accommodaient, les gens arrivaient toujours.
Les meubles, pour te dire, les meubles chez nous, c'était tout des trucs faits à la maison. On n'allait pas chez Ikea. Hein.
Ah ben non.
c'était tout.
Il n'était pas encore arrivé.
Et moi, quand ma petite enfance, je voyais sur le mur, à l'entrée de la maison, un grand bout de bois enfoncé dans le mur. Et une selle de cheval qui était accrochée dessus.
Ah
mais
ouais,
il n'y avait pas de cheval. Hein.
Et le cheval était où?
Eh ben, le cheval, après, ils ont dû le vendre ou ce truc comme ça, parce que c'était le frère aîné de mon père.
Mmh.
Quand il a vendu du bétail au marché de, je sais pas où, la Tidiaïs, il vendait du bétail.
D'accord.
Quand il a récupéré une grosse somme d'argent, bon, tout le bétail n'était pas à lui, hein. Il y avait du bétail à lui, mais du bétail à d'autres...
Oui.
D'autres propriétaires.
Mmh.
Et en revenant à la maison avec son cheval, il s'est fait arrêter par des bandits qui ont voulu le dévaliser.
Ah, oh ben mince.
Et en pleine campagne, entre le marché et puis sa maison, quoi, il y a 10 kilomètres.
Ouais.
Ah, ils l'ont racketté, et puis il a dit, toi je te connais.
Mmh.
Et ils étaient deux ou trois. Mmh. Ils ont dit, bah, puisque tu nous connais, bon, bah, on va le tuer, ils l'ont égorgé.
Ah, ils l'ont... Non.
Voilà, et le cheval est rentré tout seul à la maison.
Oh mon Dieu.
Eh oui. Et moi, j'ai trouvé la selle à la maison. J'ai toujours vu. J'ai jamais vu le cheval, parce que le cheval, après, bon, ben, ils l'ont vendu, je sais pas ce qu'il a fait. Mais le cheval est rentré tout seul à la maison.
C'était ton oncle?
Oui, le frère de mon père.
Ah, ils l'ont tué. Oh là 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 là. Ah, ça rigolait pas, hein.
C'était des sauvages, hein.
Ben, c'était comme dans les films de cow-boys, hein.
Ah oui, c'est pareil, oui,
oh
oui.
Oh là
oui,
là.
Oui.
Ben,
oui.
Ah, dis donc, c'est incroyable. Hein.
C'était pas les voitures à l'époque, hein. C'était des ânes ou des chevaux.
Oui.
Et quand mon père, quand il est revenu en 49 en Algérie du bagne de Cayenne. Il s'est marié avec ma mère.
Ah oui.
Enfin bref, quand il a fait la circoncision à moi et un cousin.
Oui.
Il a fait ramener des denrées,
mm-hmm.
mais sur un chameau.
Un chameau.
Au Kabylie, non, c'est pas un pays de chameau, le Kabylie. Hein.
Ah, c'est pour ça que je dis
il
chameau.
A ramené, oui, il a ramené.
Ah, dis donc, c'est dans le décor de Kabylie, un chameau. Oh, c'est
oui,
pas mal,
oui, oui, il est venu. C'est-à-dire, c'est le. Comment on appelle ça?
Ah,
pour
oui.
Transbahuter, bon, soit ça t'avait un mulet, soit t'avais un cheval.
Oui,
soit
un chameau.
Carrosse, et c'était sur un chameau.
Oh, le pauvre chameau, mesquine, il lui faut le désert, le chameau.
Il a ramené tout ce qu'il avait acheté, il l'a ramené sur un chameau, il l'a pris en location, le chameau.
Ah oui, il est venu du désert, il a traversé jusqu'à...
Ah ben, il y a des gens, il y a des marchands au Souk, il y a des marchands qui viennent de 500, 600, 700 kilomètres.
Il a supporté le climat, le chameau,
Souk des animaux, le Souk des animaux, là où ils vendent les animaux. Alors, ils vendent de tout, ils vendent pas que les animaux, hein. Moi, j'ai vu en quelle année? En 83, c'est pas vu, hein? 83, 85. À 4 heures du matin, il y avait une, comment on appelle ça, des troupeaux entiers de bœufs, de chevaux, de moutons, de. C'était incroyable.
Ah oui, marcher aux animaux, oui, c'est connu.
Ben, 4 heures du matin, ils arrivaient.
Mm-hmm.
On marchait.
Ben oui, parce
moi,
que.
Et moi, j'étais là dans le village, et quand j'ai entendu tous ces chevaux,
oui.
Ça m'a fait bizarre.
Ah oui?
Ça m'a fait bizarre.
C'est-à-dire?
Oui, mais parce que. Il y avait des centaines et des centaines,
ah oui,
voire des milliers de
entendre les chevaux hennir, voilà.
Oh là là. Mais à 4 heures du matin, tu dors normalement. Quand on entend tous les marchands qui viennent avec leurs troupeaux et tout ça, c'est impressionnant. Hein.
Ouais, ça doit être impressionnant.
C'est impressionnant.
Ça faisait des.
Oui.
T'avais tous les.
Et les gens payent pas en chèque, payent tous en espèces, en liquide. Hein.
Ah, ils venaient avec des.
Ah, ben avec des sacoches.
Ah, des sacoches.
Avec
de l'argent. Ah, oui, des sacoches, des grands sacs.
C'est des
machines. Ça doit être quelque chose. Hein, ça avait son charme en même temps.
Ah oui.
Ah, ouais. C'est fini tout ça?
Avec des bernous, avec des machins. Il y en a qui viennent avec des chaises, tu sais, de Boussaada, ils viennent de loin.
Ah oui.
Tu vois, il y a des Kabyles, il y a des Arabes, il y a des Touaregs, il y a de tout.
Ça devait être beau à voir.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Est-ce que c'est fini tout ça maintenant?
Non, il y a toujours le souk des animaux, il existe toujours, mais c'est beaucoup moins qu'avant.
C'est moins, on va dire, c'est moins folklorique. Voilà.
Oui,
maintenant. C'est moins coloré.
Oui, c'est différent.
Tout change, hein, tu vois, mes yeux.
Moi, je te parle en 85, je crois, 83,
ah
83
oui.
85, et j'ai vu ça.
Ah oui.
Tu vois, c'est pas si vieux que ça. Hein.
Ouais, mais enfin, c'est des beaux souvenirs, finalement, parce que regarde, les choses qui disparaissent, ben, tu les as gardées. Aujourd'hui, tu les as fait vivre, on les a vues. Hein. On a entendu le hennissement des chevaux. On a tout entendu, on a tout vu, on a vu défiler, tu vois, comme quoi, une histoire.
Et c'est marrant parce qu'il y avait des gens, on leur écrit des Mexicains, tu sais, avec les sombreros, là.
Des
chapeaux de paille.
Ah oui.
Hein?
Oui, je vois. C'est contre le soleil, ça, c'est pour se protéger.
Des grands chapeaux de paille, encore des Mexicains avec leurs moustaches.
Tu vois? Eh ben, tiens, en parlant de Mexicains, Bazané, la chanson de Marcel Amon qui est décédé, paix à son âme. On lui rend hommage, là, ce soir, à lui, et condoléances à sa famille.
Je t'assure, quand je raconte ça à mes enfants, ils me disent, c'est pas possible, papa, tu nous dis des bêtises. Je dis, non, c'est la vérité. C'est vraiment le truc.
Mais c'est magnifique. Au contraire, tes enfants, ils ont de la chance.
Ah oui.
Parce que tu es témoin et tu es un bon conteur.
Ah bah ça, je sais pas.
Mais c'est magnifique. Il n'y a plus aujourd'hui.
Ah oui.
Les parents ne sauront plus raconter. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont plus de souvenirs transmis.
C'est une vie paysanne.
Mais c'est beau.
Ah oui.
Mais c'est beau. Parce que c'est l'aventure en même temps. C'est l'aventure, c'est la nature.
J'ai des très bons souvenirs. Hein.
Eh oui, et pourtant, tu étais très jeune.
Ah oui. Je suis venu très jeune. Moi, je suis venu en France, j'avais 8 ans.
Eh oui, 8 ans, t'imagines. Donc, malgré tout, tu as gardé des souvenirs.
J'ai pas l'indépendance encore.
Et tu as gardé des souvenirs.
Ah, j'ai gardé, d'ailleurs, ce qui est incroyable. Ça,
avant 8
même
ans.
Même avec ma mère, la Rama, elle me dit, c'est pas possible. Il y a des trucs, je me rappelle, j'avais 3 ans.
C'est fou, hein.
J'ai une mémoire de,
ah oui.
de mon enfance, pas possible.
Oui, paraît-il qu'on peut avoir une mémoire très très tôt, qui remonte à très loin. Tout dépend, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette mémoire et ces souvenirs qui remontent à très jeune.
Eh oui. Mais je suis reparti en Algérie, quand je l'avais quitté, je suis retourné 19 ans après, t'imagines, 19 ans.
19 ans,
Et quand je suis retourné dans mon village...
Oui.
Je me rappelais des noms des gens, des voisins, des voisines, tout ça. Alors que je suis venu jeune, je suis retourné 19 ans après, je me rappelais tout le monde.
C'est pas vrai.
Oh là.
Alors que tu es parti quand même à peine 8 ans.
Oui, j'avais
19 ans plus tard.
Ans,
et
ouais,
tu...
8 ans. Moi, je suis du mois de février.
Ouais.
Et je suis venu au mois de mai, 1er mai.
C'est incroyable.
Et quand je suis retourné 19 ans après, il y en a qui m'ont posé des questions et je leur ai répondu qui était sa fille, qui était son frère, son père.
C'est pas vrai.
Quelle maison et tout.
C'est incroyable.
Ils m'ont dit, ils ont dit à ma mère, toi, tu te rappelles pas, lui, ton fils, il se rappelle.
C'est
incroyable. Ma mère a oublié des trucs que moi, je me rappelais.
Et tu te rappelles. C'est un observateur aussi. C'est un don, ça, hein, l'observation.
Ah oui, Méziane.
Tu nous as transporté, c'est magnifique. Et on va continuer, on va parler des souvenirs, tout ça. Ne pars pas, Méziane, et j'attends les autres. Allez, venez faire un débat. Elle est où, notre Fatima Habibti, Sabrina, les autres, Nadia et tout. Alors, je vous attends. Hein, et là, tout de suite, on va écouter. On va d'abord, c'est la pub. Hein.
Une petite pub, on fait rentrer l'argent. Et petite, après...
Voilà, exactement. Oui. Et juste après, un son qui pourrait adapter un petit peu au sujet, on va dire. Ok, allez. 01 53 48 3000 et juste après le son, j'espère que le standard. Voilà, j'espère vous retrouver, hein. Tous nombreuses et nombreux. Mais appelez dès maintenant. Anthony vous attend. À tout de suite, Anthony, je te laisse répondre.
Confidence, reviens dans un instant.
Ah, si j'étais un homme. Voilà, c'est Diane Tell, mais je suis bien contente d'être une femme, moi. 01 53 48 3000.
Il y en a qui ont de la chance.
Ben écoute, non, faut être content de ce qu'on est, voilà. Oui, puis parce que d'abord on n'a pas le choix, voilà. Et puis je sais pas, enfin, ouais. Puis il faut essayer de s'améliorer en tant qu'être humain avant tout, peu importe qu'on soit femme ou homme. Mais voilà, toujours s'améliorer, c'est ça qui est important. Voilà, pour une vie en société harmonieuse. Alors, Méziane, je te reprends juste après. On a Naïm qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Naïm. Naïm,
oui,
qui
va bonsoir,
qui est à sa radio. Voilà, c'est bien.
Ouais.
Tu l'es à ta radio.
Ça va
et toi, Naïm?
Impeccable. Ah. Ouais, j'appelle pour les souvenirs, parce que Méziane, il était un petit peu voyagé après.
Bah oui, bah tiens, je l'ai mis avec nous, Méziane.
Et c'est vrai qu'on a tous des membres de notre famille. Moi, j'avais mon oncle, qui est décédé il y a 3 ans. Et il avait fait la Deuxième Guerre, etc. Il nous racontait des trucs. C'était un livre ouvert, quoi. Un livre ouvert.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que c'est impressionnant. Même mes grands-parents, ils nous racontaient des choses dans les années 30, 40. C'était impressionnant. Mm-hmm. Alors moi, j'ai le grand-père à ma mère qui nous racontait.
Oui.
Il est parti à la Mecque, donc du Maroc. Il est parti à cheval.
À cheval.
Il a mis 4 ans.
Non, hein, c'est pas vrai.
4 ans. 4 ans à l'époque. Donc, il partait. Oh, il rejoignait les gens qui partaient d'Algérie, de Tunisie, de Libye. Et partout, il s'arrêtait, il travaillait un peu, il repartait, etc., etc. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Hein, donc
comme ça.
Ils ont fait le pèlerinage qui était mérité et ils sont rentrés. En tout et pour tout, ça a duré quasiment 4 ans.
C'est ça. Me rappelle, salut, Naïm.
4 ans. Oui, il y a Méziane. Ouais,
ça me rappelle Ibn Battuta.
Voilà, oui, mais à l'époque, c'était comme ça.
C'était comme ça, ouais, on voit à pied ou avec des animaux, oui.
Voilà, quand maintenant on voit que tout le monde part à la Mecque, ça devient du n'importe quoi, tous les jeunes, des filles. Enfin, bref, à l'époque, c'était un voyage de toute une vie.
Ah oui, oui, oui.
De toute une vie.
Il fallait vraiment avoir envie d'y aller parce que c'était quand même une aventure. Hein.
C'était très long. Donc
et puis ça se prépare,
hein,
parce que sans téléphone, sans rien, 4 ans.
Voilà. Et en même temps, alors à l'époque, elle me racontait, il leur racontait après, parce qu'il était quand il est revenu, il y avait des gens de tous les pays. Donc ils partaient tous en même temps pour ne pas être seuls. Donc ils devaient être au moins 200 sur la route.
Et comment les familles avaient des nouvelles, parce qu'on s'inquiète aussi de celui qui part et qui, pendant 4 ans, ne donne pas de nouvelles.
Et regarde, Vanessa, on ne va pas si loin.
Il envoyait des messages à travers les colombes, là, tu sais,
ils mettaient leur destin entre les mains de Dieu et partaient comme ça. Hein.
Non, mais pas de nouvelles. Oui. C'est-à-dire pas de nouvelles à sa famille. La famille doit
pas de nouvelles,
être...
Rien. On part pas si loin. À l'époque, en 90... ou même 87, 88, 85, quand on partait nous au Maroc de Toulouse, on mettait déjà 3 jours, comme maintenant on met qu'une seule nuit pour aller en voiture.
Trois
jours et demi en voiture, il n'y avait pas de téléphone. On allait à la poste quand on arrivait au Maroc et on téléphonait sur le fixe ici. On ne savait même pas si on était ni vivant ni mort sur la route. Il n'y avait pas de téléphone.
Oui, c'est vrai.
L'Espagne, c'était à l'époque, c'était le désir, il n'y avait rien en Espagne. C'était horrible l'Espagne à l'époque, il n'y avait rien. Donc du coup... Et une fois arrivé là-bas, on allait à la poste centrale de la ville, au Maroc, et on téléphonait à la Phanisie pour dire on est bien arrivé.
Incroyable.
C'est pareil pour les Algériens, c'est pareil.
Hein. Ah ouais, bah ouais, ah ouais.
C'est une sacrée aventure. Hein.
Maintenant où il y a des portables, on se filme sur la route.
C'était vraiment l'aventure en fait. Ça avait son charme finalement. Ses côtés.
Aventurier, on va dire.
Ouais, mais ça faisait aventurier, c'était.
Mais ils partaient à plusieurs centaines, hein, des milliers même, ils partaient. Hein.
À la Mecque.
Oui.
De personnes, oui. Et puis des fois, il y avait des bandits sur le chemin, des fois. Hein.
Ah bon.
Voilà. Oh là là. Et puis, quand ils arrivaient, par exemple, en Égypte, etc., ils travaillaient chacun un peu, ils ramassaient un peu d'argent, ils mettaient tout ça en commun et ils continuaient le voyage.
C'était comme des caravanes.
Ah ben c'est ça, caravane. Ben oui, c'est le mot.
Ben oui.
Donc du coup, c'est vrai que c'est des livres ouverts, quoi, les gens de l'époque qui nous racontaient.
Ah oui, mais il y avait
de quoi raconter, c'est vrai, parce que
4
ans de voyage plus le pèlerinage, ah oui, il y a de quoi raconter.
Moi,
ça, c'est des livres à écrire. Hein, c'est,
Moi, mon oncle, il m'a raconté, parce que quand il est décédé, il était en forme encore. Il m'a raconté la guerre et l'indépendance de l'Algérie.
Oui.
Quand lui, il était, parce qu'il disait, on est marocain, donc il était au Maroc,
il
traversait les montagnes pour donner des armes aux soldats algériens. Il y avait un mois de salaire de l'armée marocaine qui était versé pour aider les combattants algériens.
Naïm,
ton prénom c'est Naïm.
Naïm, oui. Naïm.
Ouais, je sais pas si tu as entendu, j'ai dit, moi, mon père, il n'a pas voulu faire la guerre pour aller combattre des Marocains au RIF.
Donc ici,
il a été insoumis. Ouais. Il a écrit une lettre, il a dit, jamais ta vie, je vais tuer tes frères. Jamais.
C'était pendant la, colonisation.
Parce que nous, au Maroc, on était sous protectorat, c'était beaucoup plus léger qu'en Algérie. Et quand les combats ont fait rage en Algérie, les soldats marocains, les maquisards, ils montaient dans les montagnes, du côté de Oujda, du côté de tout ça. Ils aidaient les Algériens à
passer les armes.
Oui, c'est vrai.
C'est la guerre, hein, c'est
comme ça. Non, non, il y avait une solidarité, même Tunisien, Marocain.
Quand il est parti en Indochine, mon oncle, ils sont partis de Oran, du Maroc, ils sont partis jusqu'à Oran. Et de Oran, ils ont pris un grand bateau pour aller, qui a duré 3 semaines pour aller en Indochine. Il m'a dit, on ne savait même pas où on allait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'ils avaient dit, venez combattre pour votre mère patrie, etc. Il m'a dit, il y avait de tout. Hein. Il y avait des Algériens, il avait 17 ans. Et ils avaient menti pour qu'il puisse partir en disant qu'il avait 20 ans. C'est quand même fou. Hein.
C'est incroyable.
Et il est resté là-bas sans téléphone, sans rien pendant 3-4 ans.
Wow.
Et mon père, quand il est revenu de Cayenne, le bateau s'est arrêté à Tanger.
D'accord.
Ben oui, voilà.
Et après de Tanger, il a pris le train, je sais pas quoi, il est pas arrivé en Kabylie.
Et moi, mon oncle, il me racontait quand ils sont arrivés en Indochine. Déjà, quand ils sont arrivés à Marseille, ils n'avaient rien à manger, déjà, les Français. C'était la guerre. Ils avaient. Ils mangeaient des ragondins. Il m'a dit, nous, on est arrivés du Maghreb, d'Algérie, du Maroc, on a ramené des pastèques, du pain, voilà, du blé. Ils n'avaient pas tout ça. Et il m'a dit, on a fait une transit par Marseille, après on est reparti en Indochine.
C'est incroyable.
Alors quand il me raconte l'Indochine, c'est pire. Il m'a dit, j'ai jamais vu un pays. Il m'a dit, on est arrivé, il y avait, comme dans Rambo, il y avait des herbes hautes, que tout ça. Il mangeait que des fruits et que des légumes, il ne connaissait pas le pain. Et après, parce qu'il a été emprisonné, il parlait leur langue. Jusqu'à très vieux, il savait compter comme eux, dire j'ai faim, je veux manger, j'ai soif. Le bandit, quoi.
L'Indochine.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Mais c'est fou parce que ces choses-là, on ne pourra plus jamais les revivre. Personne ne pourra les revivre.
Mais ces histoires-là, tu vois, c'est dommage. Hein. C'est dommage qu'elles ne soient pas mises sur le papier. Si, il y a certains qui ont dû écrire, mais je pense
Il y a eu des livres.
Mais oui, mais ce n'est pas suffisant. Regarde l'histoire de Naïm. On ne va pas loin. Son père, il parle de son grand-père. Alors, donc, finalement, c'est les vivants qui devraient écrire. Tant que, avant de partir, moi je parle de, leurs enfants, ceux qui savent écrire.
Des témoignages.
Voilà, écrire ces témoignages. Ouais. C'est hyper important. Vraiment, c'est important. Parce qu'il y a pas, c'est pas romancé.
Il n'y a pas de but lucratif derrière,
il n'y a rien.
Mais de toute façon, ça c'est fini maintenant. Ça ne pourra plus se vivre. Personne, on pourra dire plus tard, on a connu la vie sans téléphone, etc., etc. On le fait déjà d'ailleurs.
C'est ça.
Pour les plus jeunes, mais ces histoires-là, à l'époque où les gens faisaient confiance au destin, faisaient confiance à Dieu aussi quelque part, parce qu'ils partaient.
Ah oui, oui, ils partaient avec la foi, bien sûr.
Ils partaient dans le néant.
Ah ouais.
Donc du coup, c'était quand même fou que de partir comme ça sans savoir où on va.
Sans boussole, comme qui dirait.
Non, comme tu disais, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien à cette époque-là. Ils ne savaient pas si un jour ils allaient se revoir.
C'est ça.
Tout à fait. Comme on disait en arabe, Fidullah, entre les mains de Dieu.
Exactement, voilà.
Ouais, ouais.
C'était vraiment une aventure dans tous les sens du terme. Hein.
Comme moi, quoi, l'être humain...
Quand on partait au Maroc, quand on était jeune, parce que mon père il avait un camion à l'époque, on partait, on mettait 3 jours et demi, quand j'étais gamin dans les années 80, les gens venaient nous dire au revoir comme c'était des adieux.
Ah oui, parce qu'on
ne savait pas que traverser l'Espagne, il fallait voir l'Espagne des années 80, il n'y avait rien.
Ah oui.
C'était des nationales, pas de lumière, les gens se suivaient à la queue leu-leu quasiment parce qu'ils avaient peur, et ils allaient à tâtons, quoi, jusqu'à arriver au Maroc. Ou en Algérie, parce qu'à l'époque, les gens passaient par le Maroc ou en Algérie.
Oui.
Et beaucoup d'Algériens qui passaient par le Maroc.
C'est ça.
Donc c'était fou, ouais.
C'est incroyable. Incroyable, parce qu'on a l'impression qu'on parle d'un siècle.
C'était une époque quand même dure, mais en même temps, il y avait du charme.
C'est ça.
Ah, il y avait beaucoup de charme. On s'arrêtait sur les aires de repos.
Et de solidarité.
Dans le bateau, il y avait de tout. Il y avait des Algériens, des Tunisiens qui traversaient. Il n'y avait pas les frontières fermées.
Il devait y avoir une ambiance.
Il y avait une ambiance. C'était fou. C'était. Et on partait à 3-4 voitures, on se suivait.
Ouais.
C'était différent. Ça ne fait pas la même saveur que maintenant. Maintenant,
voilà,
moi, c'est quand je pars au Maroc, je pars à 20h le soir. Lendemain matin, à 5h, je suis déjà à Tanger. La route, c'est que de l'autoroute. Voilà.
Ouais,
à l'époque, il n'y avait rien.
Ouais.
Il faut savoir qu'on s'arrêtait à 20h, 21h de rouler parce qu'il n'y avait pas de lumière en Espagne.
Ouais.
Et c'était... C'était le Mesiel Kahla, le Mesiria en Espagne.
Oh là là là, ah ouais.
Tout ce qui était sympa en Espagne, c'était l'Andalousie. Dès qu'on dépassait Madrid, c'était un peu comme le bled.
Ah.
Voilà. Ils vivaient comme nous, ils vendaient des légumes frais au bord de la route, des fruits. Donc on avait un peu déjà
Les Marocains, les Algériens, tout ça, ils ont vécu là-bas pendant 8 siècles.
Ah ben ça c'est clair. Hein. On va prendre Samia. Méziane, on va prendre Samia avec nous. Elle nous appelle de la Seine-sur-Mer. Bonsoir Samia.
Oui, bonsoir ma Vanessa, c'est Samia Zoukoumouti.
Bienvenue Samia.
Ma mère, oui.
Super.
Eh bien, bonsoir. Et je vous rappelle, je voulais parler de ce sujet-là. Je suis une fille d'un ancien combattant.
De qui, pardon?
D'un ancien combattant.
Ah, ben tu vois, c'est la soirée des souvenirs. Formidable.
Je me rappelle. Je vous ai raconté mon histoire de A à Z, hein. Et je me rappelle mon enfance. Mon père, il est venu du Maroc, de Sahara.
Oui.
Il a fait la guerre 14-18.
Eh oui.
Et je me rappelle, comme j'avais 10 ans, je l'ai perdu. Et il travaillait dans une gazarne à Constantine.
D'accord.
Il ne voulait pas venir en France.
D'accord.
Donc, il a eu une bonne place, parce que comme il a fait la guerre 14-18, mais il est resté toujours algérien.
Il était algérien ou marocain? Je n'ai pas trop compris.
Non, il vient du Maroc. Ses racines, c'est Maroc.
Donc, il est marocain et algérien en même temps, hein, comme beaucoup. Voilà. Comme quoi, c'est les mêmes racines.
Vous savez, tout ce que vous parlez des animaux, là, vous allez recevoir un jour.
Oui.
Il y a quelqu'un qui va vous faire un grand chèque. Et vous allez faire un truc pour les animaux. Après, vous m'appelez.
Oh, j'en ai la chair de poule, que Dieu t'entende. Hein.
Je te jure.
C'est bon.
Ils vont vous aider pour les animaux. Hein,
C'est mon rêve de m'occuper d'animaux. Alors, si j'arrive à l'exaucer.
Et Brigitte Bardot, Vanessa.
J'attends le mécène, hein. J'attends le chèque.
Écoute-moi, Vanessa, mon père, Moi,
mais je te crois, hein, je te crois, Samia. Hein.
Attendez mon histoire, ma Vanessa. Notre arrière-grand-mère, elle est partie à la mer, comme il a dit le jeune
Naïm.
Elle s'appelait Sarah. Elle avait les yeux bleus, parce qu'on est des berbères, de racines berbères.
Oui.
Et moi, je suis niaque. Et après, il paraît, comme son mari est mort, elle a épousé, comme vous avez dit, son frère, pour la famille reste dans la...
Votre ancêtre.
Voilà. Après, moi, mon père, comme il est mort, j'avais 10 ans, j'ai fait un rêve. Bon, mes rêves, ils se réalisaient. Ah. J'ai vu que mon père, il m'a donné sa main droite à ma main gauche, la main de cœur.
Ah oui.
Et je dis, mon père, dans le, comme ça, c'est dans l'ombre, hein. Je vois mon père à l'ombre.
Oui.
Et ma tante qui est décédée à l'Allemagne chez ma cousine, parce que moi, mes cousins sont tous des médecins. D'accord. La famille d'Herbouche. Bon, je peux dire même leur, parce que je suis fière de ma famille.
Oui.
Elle a les yeux bleus, comme notre, c'est la seule tante qu'elle a les yeux bleus, comme notre arrière-arrière-grand-mère Sarah.
D'accord.
Donc, ma famille. Ah, et oui. Après, elle m'a dit, écoute, Samia, tu l'as fait à Mohamed Chérif, Chérif, mon père.
Oui, oui.
Il a un don, il m'a donné un tissu vert, je l'ai mis sur Zen, Saha. Elle m'a dit, elle a eu 10 enfants, 5 filles, 5 garçons, tous des médecins, la Iberic.
La Iberic. Magnifique.
Et je suis fière de l'être que la première, c'était qui? C'est la gynécologue qui a Khachla.
Oui.
Lima Derbouche, que son père, Layarh Moukamek, lui a ouvert une cabinet, tout le monde maintenant qui entend. Il y a aussi son frère qui est pédiatre à Kaïs, et l'autre dentiste. Tout ça, c'est mon cousin, mon père, il a fait. Voilà, allez, dites, maman, ma Vanessa. Je te jure, l'autre fois, comme je t'ai raconté, c'est un don, ça, c'est le bon Dieu qui veut me donner mon mot. Et moi-même, je suis fière de l'être. Mon mari, mon ex, il était un peu violent, mais moi je ne salis pas ma famille.
Attends, Samia, il y a Méziane qui s'adresse à toi. Attends, Samia.
Alors, tous tes oncles, comme ton père, il a vécu à Constantine après, ou il a fini sa vie en Algérie?
C'est marié à Constantine, mais sa mère, la mère de mon oncle, elle se rappelle, elle m'a dit, la mère à ton père, c'est la famille Bouslimania, c'est une vraie marocaine. Et nous, on a un don, on est venu dans le stade de Moulaya Idriss, qui est Paris.
Idriss, oui.
On est dans le nom.
Samia, il y a Naïm qui te répond. Oui, Naïm, tu réponds à Samia.
Il y a beaucoup de... mon père, là, il a beaucoup d'amis. Et j'en connais beaucoup, des gens qui sont nés en Algérie, qui ont grandi au Maroc, et vice-versa. C'est impressionnant parce qu'ils ont sur les papiers, par exemple, le passeport marocain, mais il y a marqué « né en Algérie, à Oran », etc.
Oui,
et il y a un dôme, ils ont une maison à Oran, par exemple, je connais quelqu'un qui a une
maison
et une maison où je dois. Et alors, incroyable. Ils vont chaque année, ils vont où deux. Ils sont âgés. Hein.
C'est magnifique.
Ils ont grandi comme ça.
Oui,
ils ont grandi, ils étaient en Algérie, après ils sont partis au Maroc. Et
bien
quand ils te parlent, subhanallah, ils parlent comme les Marocains, mais avec, comme on dit en arabe, l'ehja, c'est-à-dire avec l'accent algérien.
Eh bien, quand j'étais à Sidi Blabès, la moitié des gens là-bas, c'est des Marocains.
Mais c'est...
Il y en a beaucoup,
Sidi Blabès.
Mais oui.
Et moi, maman, là, qui me raconte, elle me dit, la mère à ton père, c'est une Marocaine, ton père vient du Maroc. Et je sais que... Mon nom de jeune fille, c'est Rizqallah. Je porte chance. Je suis née le 7 avril. Bientôt mon anniversaire, Vanessa.
Ah, t'es bélier, t'es comme moi,
bélier. Oui, ma Vanessa, moi, ma petite fille Milena de la Vendôme, je l'ai vue dans les rêves. C'est une fille miraculeuse.
Magnifique.
Ma fille de bord, elle a eu une grossesse hystérique. Ça veut dire qu'elle avait des jumeaux. Elle a perdu le bébé. En 87. C'est une histoire que j'ai un don, hein, comme ça, vous savez.
Ah oui.
Et il m'a appelé son mari. Oui, bien. Donc, ils vont venir dimanche manger ici, hein, chez moi. Ils sont invités avec. Donc, il m'a dit oui, viens. Ta fille, elle ne veut pas s'avancer. Elle ne peut pas avoir son code. Elle ne peut pas me faire des gosses. Je dis, il n'y a pas de souci. Je suis allée, j'avais à l'époque une cynique. J'ai dormi là-bas. L'hiver, il a fait la chimie. Le soir, je dis, demain, je vais prendre ma fille, je rentre. J'amène ma fille.
Attends, le mari, il reproche à ta fille de ne pas tomber enceinte. C'est ce que je comprends. C'est ça?
Le bébé.
Samia, attends, excuse-moi, ma chérie.
Ma fille, je l'ai ramenée 2 mois et demi, je suis un rêve, ma.
Attends, non, vas-y doucement, Samia. Tu m'écoutes? Le mari de ta fille reprochait à ta fille, enfin, il lui reproche de ne pas tomber enceinte. Peu importe.
Oui, elle est tombée enceinte, mais elle a perdu le bébé, mais subhanallah.
Et qu'est-ce qu'il reproche? C'est incroyable, ça.
Après, comme je l'ai ramené chez moi, j'ai fait un rêve. Je vois une petite fille, les yeux plus clairs, elle me dit, moi, je vis sur ton toit, et toi, tu ne le sais pas. Le lendemain, j'allais l'amener chez la gynécologue, qui s'appelait Hassmi, saignée aussi ailleurs. Je me suis Sandra, j'ai vu une fille, elle a 4 ans. Elle est partie chez la gynécologue, elle a dit, tu as 2 mois et demi. Ma petite fille, elle a 14 ans.
Ah ben tu vois.
Une belle fille.
C'est magnifique, tu vois. Mais son mari lui reprochait de pas...
Enfin, et voilà maintenant, c'est une jeune fille, elle est trop belle, j'ai mis son prénom.
Ah oui. Attends,
Attends,
on a peut-être Naïm qui voudrait aussi dire des choses. Naïm, continue, parce que tu avais des choses intéressantes à dire.
Je vais vous laisser, je suis en train de conduire.
C'est vrai que Samia a monopolisé du tout. Du coup,
non, c'est pas grave, c'est enrichissant aussi. Oui. Je dis à bientôt,
Inch'Allah. Inch'Allah, à bientôt.
Et reviens nous donner la suite. Bisous, bonne soirée, au revoir, Naïm. Très sympathique, Naïm, Méziane.
Très sympa, oui.
Ah oui,
moi j'aime bien. Tu vois, chacun ramène l'histoire qu'il a connue de son grand-père ou arrière-grand-père.
C'est ça.
Et tu vois, tout ça, c'est des trucs. Peut-être dans 20, 30 ans, 40 ans, peut-être ça va être oublié.
C'est ça, ça disparaîtra.
Si on ne transmet pas à nous, on ne transmet pas à nos enfants.
Mais oui.
Et ben même si on le transmet, peut-être qu'ils vont garder 10% et à peine.
Et à peine, parce que tu vois, la nouvelle génération qui est complètement connectée là, avec ces nouvelles addictions, là, tout le monde avec son écran. Qu'est-ce que tu veux qu'ils t'écoutent, qu'ils écoutent tes histoires de chameaux?
Non, ça ne les intéresse pas.
Tes histoires d'aller à la Mecque, de l'histoire de Naïm, qui est juste magnifique. Ouais, il nous a fait rêver de son grand-père qui a pris, qui est parti sur à cheval jusqu'à la Mecque pendant 4 ans, qui a rencontré des gens. C'est magnifique, ça fait rêver.
Mais moi, ma mère m'avait dit qu'elle partait à pied à la Mecque, d'Algérie, avant.
Tu te rends compte?
Et partaient à pied, les gens. Hein. Ils ont pris les animaux.
Eh oui, voilà.
Il n'y avait pas l'avion. Hein.
Mais oui, mais comment transmettre ça aux nouvelles générations? Impossible.
Il y en avait qui ne revenaient jamais, hein, qui mouraient en cours de route. Hein.
Eh ben oui, mais c'est certain.
Parce que quand même, ça fait un coup. Hein.
Mais Méziane, aujourd'hui, parce que voilà... on peut pas transmettre ça. Parce que pourquoi on peut pas? Même si les parents veulent, parce que c'est pas la faute des parents, forcément. Parce que même si les parents, des histoires qui leur sont racontées par leur grand-père, etc., ils ont envie de transmettre. Mais les enfants n'écoutent pas. Ils sont pas attentifs à ça.
Ils sont pris pour autre chose.
Mais non, qu'est-ce que tu racontes et tout? Ils ont les oreilles déjà bouchées.
Mais tu
avec
vois,
les...
regarde l'avantage qu'il y avait avant. Les gens, quand ils restaient autour du feu, il n'y avait pas la télé. Ils parlaient de leur vie, quoi, de leur voyage, leurs parents.
C'est ça.
Ils se transmettaient.
C'est ça.
Devant le canon.
Mais oui.
Autour du canon.
Oui. En France, c'était autour de la cheminée.
Voilà. Et nous, c'était le canon. Le soir après manger. Le feu de bois, et les gens, ils discutaient, les parents, les grands-pères, la grand-mère, racontaient des histoires. Des contes aussi, il y avait des contes, il y avait une transmission.
Tu sais quoi, Méziane, quand j'entends tout ça, je donnerais, je sais pas, la moitié de ma vie, je donnerais je sais pas quoi, pour vivre ça.
Ah oui,
C'est tellement beau pour vivre,
revivre
ma grand-mère, tu vois. Quand je mettais la tête sur ses cuisses comme ça allongées, qui me caressaient les cheveux, qui discutait avec ma mère, avec mes tantes, etc.
Il y avait la tendresse,
cette ambiance,
la tendresse, ouais.
Voilà,
la simplicité, la tendresse.
Voilà, et tu sais, il y avait une ambiance tellement chaleureuse, tellement. Tu étais transporté, tu avais le cœur plein d'amour.
C'est ça qui est, regarde, tu vois, les gens, ils avaient le temps de discuter la nuit.
Oui.
Tu sais, autour du feu, il n'y avait pas la télé, donc
c'est
ils discutaient, ils parlaient entre les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents. On vivait un peu en famille, hein.
Mais oui, beaucoup.
Mais maintenant, les enfants, ils rentrent, ils mangent dans leur chambre, ou ils viennent manger en 5 minutes, ils retournent dans sa chambre.
C'est ça.
Il y en a un qui est dans une chambre, l'autre il est dans l'autre, l'autre il est au premier, l'autre il est à la cave, l'autre il est au sport. En fin de compte, ils se voient 5 minutes par jour, quoi.
C'est ça. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, c'est complètement, mais vrai, parce que aujourd'hui.
Donc ils peuvent pas faire des souvenirs en famille.
Non, ils sont dans la famille. D'ailleurs, il y a des pubs. Il y a une pub qui passe, je t'assure, elle est parlante. Hein. L'autre fois, j'étais frappée par cette pub à la télé. Moi, je ne regarde pas trop les pubs, mais celle-là, elle m'a frappée parce que c'était les dialogues. Donc, ils disaient qu'ils sont devant, je ne sais plus, un endroit, devant un banquier, je ne sais pas, un truc comme ça, un guichet, il y a quelqu'un derrière et tout. Ils sont assis avant de signer quelque chose. Et il est avec son fils. On voit un père et son fils, père d'un certain âge, et son fils, jeune homme et tout. Et puis d'un seul coup, ah oui, chez un opticien pour les lunettes.
Ouais.
Alors il a, si tu veux, c'est vraiment plein de métaphores. Parce que il regarde, et puis il regarde à côté de lui, il est avec son fils, il est accompagné par son fils. Et il dit, mais qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Je le connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et le fils qui dit, genre, non mais arrête, elle est mauvaise ta blague et tout. Et mais cette métaphore, cette, elle veut tout dire. Je suis sûre que dans ce dialogue, en tout cas, l'auteur de ce dialogue, parce qu'il y a toujours des scénaristes, le voilà. Eh bien, je suis sûre qu'il voulait dire quelque chose à travers ça. Ça, tu vois,
en voulant vendre
des verres optiques, etc. C'était sebeb, c'était le prétexte. Mais en réalité, qui c'est celui-là quand le père regarde son fils? C'était pas une blague. Genre, on se connaît plus. Voilà. Terminé.
C'est vrai. Parce que les gens, les enfants, ils vont à l'école, les parents, ils vont au boulot. Le soir, quand ils rentrent, il y en a un qui est parti à la musique, l'autre est parti au sport. Et puis après, chacun va dans sa chambre, regarde
son écran. C'est les écrans, mais Yann, c'est pire. Maintenant, ils font même plus de sport, ils sont sur les écrans. C'est horrible.
Voilà.
Ces écrans ont tué la vie sociale.
Ils n'ont pas le temps de se voir et de se connaître.
Les relations, mais oui.
Ils n'ont pas le temps de se connaître, ils ne partagent rien ensemble.
Ben non, que se partager avec quelqu'un qui...
Et même au moment du repas, des fois, ils mangent en 10 minutes parce qu'ils sont pressés d'avoir...
Mais ils mangent dans sa chambre, mais Yann. Combien de parents te disent, mon fils, d'abord, il mange à des heures pas possibles, c'est pas les mêmes horaires.
Déjà,
et il te dit, il mange pas à table, le père et la mère se retrouvent tout seuls.
Non, c'est une société, qui va mal. On a plus de choses, de plus de confort qu'avant, mais il y a moins de chaleur.
C'est ça.
Il y a moins de chaleur humaine.
Et puis, voilà, il y a moins de chaleur, moins de contact.
Moins de contact, oui.
Moins de contact, t'imagines, c'est terrible. C'est terrible parce que...
J'entends même des enfants qui ne voient pas leurs grands-parents, des grands-parents qui ne voient pas leurs petits-enfants.
Ah oui, c'est fini ça. Ah, c'est fini.
Je sais pas, mon grand-père, ma grand-mère, moi, ils sont à tel endroit, moi je suis à tel endroit, j'ai pas le temps de les voir.
Ouais. Il y en a qui ne connaissent pas leurs grands-parents, mais je t'assure que c'est vrai. Qui ne les connaissent pas.
C'est la société, le monde moderne, il a des avantages, mais il a beaucoup d'inconvénients aussi.
Mais oui, il a tué la...
On n'y peut pas grand-chose.
Ouais, les relations sociales, c'est terminé.
C'est à
l'école. Allez, prenons déjà le départ de la vie. À l'école, avant, si tu te souviens, toi, Méziane, qu'est-ce que vous faisiez? Vous jouez aux billes, les garçons?
Ah oui.
Les filles, elles jouaient à la balle, elles jouaient à la corde. Elles sautaient à la corde.
On jouait à la balle aux prisonniers.
Il y avait même la ronde. Aujourd'hui,
la ronde,
c'est ce que c'est la ronde, ils savent pas.
Oui, la ronde.
La marelle, etc.
On voit plus ça.
Ah non, c'est fini. Ah, c'est fini, maintenant ils ont tous un écran dans leurs mains.
Les filles qui jouaient à l'élastique.
Bon, j'adorais l'élastique alors ça. Ah, j'adorais l'élastique.
On voit plus ça.
Non, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est. Hein? Ils sont tous avec leur écran. Ils sont tous en train de parler du YouTubeur ou je sais pas quoi, d'influenceurs, d'influenceuses. On les influence. Hein? Donc ils sont tous connectés, ils sont branchés. Ils ont plus ces jeux simples.
Et ils jouent plus aux billes, hein. C'est fini, hein, les billes.
Les billes, mon Dieu.
Les billes, les calots.
Les calots, le gros calot quand tu gagnes.
Mais moi, à mon époque, je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Alors que
mais t'es jeune, t'avais même pas 20 ans, toi.
Non, mais.
Son époque, elle est pas loin.
Il a même pas 20 ans, quand mon époque, à Dartanic.
Non, mais.
Aïe, Anthony.
Attends.
Non, mais ça bouge vite, c'est vrai que ça bouge vite.
Non, mais en espace de 10, 12 ans, je trouve que c'est ouf ce qui se passe.
Qu'est-ce que tu jouais, toi, à l'école?
Moi, je veux dire, honnêtement, on jouait à l'école.
La vérité, vrai. Hein.
La vérité. Balle aux prisonniers, les tout petits Blade. Ouais. À l'époque, on jouait à ça. On jouait.
Est-ce que t'as joué aux cowboys aux Indiens?
On jouait à ça. Où sont les cerfs dans la forêt? On faisait ça. On jouait même aux cartes Pokémon. On échangeait des cartes Pokémon avec des bonbons.
Ouais.
Maintenant, j'ai des amis à moi, leurs petits frères et leurs petites sœurs. Maintenant, à l'école, c'est quoi? C'est ça parle de youtubeurs, ça parle de comment on va gagner de l'argent.
C'est vrai.
Il y a plus cet esprit-là. Moi, je me rappelle, avec mes potes, quand j'étais plus jeune, je me prends encore un coup de vieux quand je dis ça.
Non, je comprends. Ça va très vite, tu as raison.
C'est qu'en fait, c'est une nouvelle génération. Moi, je suis de 2002, et pour moi, la génération à partir de 2006-2007, pour moi, c'est une nouvelle génération. Moi, à mon époque, quand on était entre nous, entre les potes, quand on sortait après les cours, on faisait une balle. Le jeu de la balle contre le mur, on devait tirer dedans, on jouait à ça, on sonnait chez les gens qu'on aimait bien, on courait, on parlait. Ça, pour nous, c'était s'amuser. Maintenant, c'est dès qu'ils arrivent, téléphone, la play, Fortnite et compagnie.
C'est dingue, parce que ce que dit Anthony, qui a 20 ans, il est l'année 2002, alors il a 20 ans, t'imagines.
Ah oui.
Et déjà, il reconnaît plus les générations qui sont arrivées après lui, il dit, ils sont pas comme moi, quoi.
Ça va très vite.
C'est fou, comme. Et ces générations, alors qu'est-ce que ça va être après les autres?
Vanessa, est-ce que les petites filles de maintenant jouent à la dinette?
À la poupée non plus, ils veulent pas.
Oui.
Ah non, la dinette, non, non, c'est des téléphones. À Noël, quand tu leur dis. Alors, moi, vieille école, tu vois, moi, j'adore offrir des poupées. Agda, je sais pas. Des poupées, des dinettes. Alors, voilà, ouais, ils jouent pas, leur mère me dit non, je joue pas avec et tout ça. Elles sont, voilà, il faut leur. Alors, cette année, je dis que tu veux, tout ça. Je veux gamine de 7 ans, tu vois. Je veux un téléphone. Alors, téléphone. Un téléphone où tu prends des photos, elle m'a dit. C'est des téléphones d'enfants. Oui, oui, ça existe. C'est des téléphones, mais c'est pour prendre des photos, des photos. Et un petit ordinateur, mais pas comme les grands, mais c'est pour, griffonner, faire des trucs. Voilà. En tout cas, écran.
Vanessa, moi, quand je suis arrivé en France, les enfants jouaient aux soldats de plomb.
Ben oui, mes cousins.
Ça, j'ai pas connu, moi.
Petits frères, soldats de plomb, les billes, ou Denia.
Ah ouais, voilà.
Les soldats de plomb, oui, il y en avait plein à la maison, tu marchais dessus. Oh là,
voilà.
Les mains là sous les pieds. Hein. Alors les soldats de plomb, ah oui, je me souviens aussi.
Les trains électriques.
Mes petits frères, je me rappelle.
Les trains
électriques. À Noël, je leur avais offert un circuit 24.
Circuit 24, voilà.
Et puis, tu sais, le garage, les voitures, elles montent, elles descendent, la machin et tout.
Oui.
Voilà, train électrique, voilà ce qu'on offrait, quoi.
Et un cadeau.
Et ils étaient contents parce que tu mettais. Voilà, ça prenait toute la pièce, t'entendais.
Ah, oui,
mais
oui,
c'était,
oui.
Ça avait son charme, tout le monde jouait comme ça. Les filles, elles avaient les petites machines à coudre. Elles avaient quoi? Elles avaient les petits trucs pour faire à manger, Zama et tout ça. La dinette.
Je
voilà.
sais pas si les enfants s'habillent maintenant, tu sais, on habille de Zorro.
Ben, les déguisements, peut-être à certaines époques, oui. À Zorro! Warkala Zorro, ils connaissent pas. Je sais pas ce qu'ils connaissent maintenant.
Zorro,
qu'est-ce que tu.
Avec le chapeau et la cape.
Ah non, ça c'était.
Et l'épée.
Ah oui, non. Je pense que c'est d'autres déguisements, mais je ne saurais pas te dire parce que ça y est, moi je suis larguée depuis un certain temps.
Elle avait un pistolet avec des amorces, tu sais.
Oui, oui.
C'était comme une bande, tu mettais dessus et tu tirais cette.
Mais aujourd'hui, il y a des personnages que je ne connais pas. Donc je vais pas m'immiscer là-dedans, mais je sais qu'ils se déguisent en. Je sais pas.
En Fortnite, en Disney, enfin.
La princesse des neiges, là où j'ai pas. La reine des neiges.
C'est Spider-Man maintenant.
Ouais, mais c'est bien qu'ils se déguisent, c'est bien, c'est mignon qu'ils se déguisent. Voilà, qui posent un peu leur portable, leur tout ça, mon Dieu.
Mais il n'y a plus, à la télévision, il n'y a plus les films qu'il y avait avant, Terrain Tintin, les films de cowboys, les Indiens.
Ah
tout
non,
ça.
C'est fini, Heidi. Même Zorro, c'était bien Zorro.
Ouais.
Ah oui. Terminé pour ce soir, mon Méziane.
Oh là là.
Tu sais quoi, je vais faire demain soirée spéciale nostalgie. On va ressortir tous les dossiers des années passées. Je t'embrasse fort, mon Méziane. Je t'embrasse, Samia. Je t'embrasse. Revenez demain. Et demain, tiens, si on plongeait un peu dans le passé pour nous faire du bien, ça fait du bien. Voilà. Même les jeunes, tu vois, vous avez aussi votre nostalgie comme Anthony qui a 20 ans, mais il a sa forme de nostalgie, notre Anthony. Il dit les jeunes d'aujourd'hui, mais plus jeunes que lui. Eh bien, il dit c'est pas pareil. Voilà, parce qu'on avait.
Il y a un fossé.
Déjà, le fossé commence à se creuser. Incroyable. Eh ben, on en parlera demain, Anthony.
Eh ben, je chercherai de l'habillage pour accompagner cette émission diverse et variée.
Eh ben, écoute, formidable. Et tu nous apporteras tes témoignages à toi, en tous les cas, d'accord, tes anecdotes, ok.
Ah ben, tu sais quoi, j'en ai plein, donc.
Eh ben, écoute, génial.
Ça va être gratiné.
Eh ben, on attend ça pour demain. On se dit bonne nuit.
Allez, bonne nuit, bon courage pour ceux qui bossent demain matin.
Ben oui, et qui bossent cette nuit.
Ceux qui ont des examens, exactement, on pense à vous. Ben et oui. Vanessa, je te laisse le flambeau. Hein. Même si j'aime bien parler, j'aime bien que ce soit toi qui conclue l'émission parfaitement.
Mais tu dis bien les choses, merci Anthony. Mais écoutez, belle et douce nuit à vous, chers amis. On va vous laisser avec Rai Anthologie et les programmes.
Riches et variés.
Ah, ça je te le laisse. Hein. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h. De 11h à midi pour vos petites annonces déjà. Notre premier rendez-vous demain, 11h midi, pour vos petites annonces. Allez, reposez-vous bien et puis pour les autres, travaillez bien. À demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.